I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, je ne sais pas si on nous entend, c'est les péripéties du live, mais nous sommes réunis tous ensemble et je vois qu'on nous entend parce que le micro est en train d'exploser, donc je pense qu'on nous entend tous bien. On est six autour d'une petite table, il y a quelques petits ventilateurs qui tournent à plein régime parce qu'il fait 37 degrés dans la capitale, en tout cas, voilà. Ouais. Ce qui est bien en tout cas, c'est qu'on est tous réunis, donc je vais commencer dans l'ordre de la table pour pas faire de jaloux. Tout d'abord, le retour, enfin non, on l'a déjà entendu depuis... La naissance, c'est Tom.
Et ouais.
Comment ça va, Tom?
Ça va très bien. Un peu chaud, mais ça va.
Les cernes sont présentes.
Mais ça va. C'est le principal.
On l'a déjà entendu, il aborde fièrement.
Oui.
Un t-shirt des Patriotes, c'est Alan. Comment ça va?
Salut les gars, un plaisir de...
Avec un short à sa taille, pour cette fois.
Plaisir de vous accueillir tous.
Je lui vole sa place aujourd'hui parce que je suis devant l'écran pour répondre à vos questions sur le chat comme un vrai youtubeur. C'est Adrien. Comment ça va, Adrien?
Ça va très bien. Tu reprends ta place. Y a pas de souci.
Ensuite, je suis très mauvais pour ça. À sa gauche, la légende de Détroit.
La légende.
Le podcasteur le plus connu de l'histoire des podcasts sur les Pistons, c'est Elias. Comment ça va, Elias?
Salut les gars, ça va plutôt bien. Et premier podcast, depuis un bail pour moi, j'ai eu le temps de partir en congé, de revenir, d'enregistrer une petite émission avec mes acolytes de Motor City. Et voilà, je suis à vos côtés.
Et puis, il vient de faire un dab en 2020 sur cette réflexion. Et il vient tout juste de finir un superbe live de We Are Thunder, c'est Pierre. Comment ça va, Pierre?
Ça va. Salut tout le monde. Je suis déjà très très chaud. Hein. Ça fait une heure que je suis en live. Là,
Il a l'air très chaud. On connaît.
On savait que j'ai la connerie déjà.
Toujours au turban.
Et puis, à côté de Dieu, il y a Saint-Pierre à sa droite. C'est Madiane qui m'aide sur ce live d'un point de vue technique. Comment ça va, Madiane?
Peu de sommeil, mais ça va.
Ouais, ça va très très bien. Nous sommes donc tous réunis et visiblement ça marche puisqu'on nous dit pourquoi ne pas faire de vidéo, Dominique. Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas tous le physique d'Alan. Hein. Donc on peut pas faire de la vidéo. Non, d'un point de vue un petit peu technique, ça aurait été difficile déjà là mettre 7 personnes autour d'un micro, c'est assez compliqué. Alors mettre 7 personnes dans une vidéo, on aimerait bien avoir le budget, hein, mais la publicité nous paye pas autant. Messieurs,
Pour le moment,
n'hésitez pas à parler du podcast à tout le monde. Messieurs, alors, on a été ensemble quelques heures avant d'enregistrer, hein, c'est pas réuni pour ça. Le sujet sur lequel j'ai envie de vous lancer, c'est tout simplement les Lakers. Certaines personnes, je regarde Elias.
Il y a eu des grandes phrases de lâcher.
Tu crois plus aux Lakers, Elias, pour un titre?
Non, j'y crois plus. J'y crois plus parce que les éléments qui se sont, on va dire, détachés du wagon des Lakers, qui sont pas nombreux, hein, on compte pour l'instant que Avery Bradley, Rondo également, mais pour qui devrait revenir normalement pour les playoffs. Mais je suis en train de m'apercevoir que autour de AD et LeBron, il y a toujours pas un joueur qui a réussi à élever son niveau de jeu. Même si j'ai plus ou moins confiance à ces deux joueurs, j'arrive pas à voir d'éléments de progression particuliers à ce qui les entoure. Et du coup, moi, je crois de moins en moins à leur chance de titre, d'autant que avec tout ce qui se passe actuellement, ils ont plus ou moins perdu l'avantage du terrain parce qu'il a l'air de plus vraiment exister. Et tout ce qu'ils avaient pu récolter de bénéfique en jouant bien pendant la saison régulière a été un petit peu mis à mal par le Covid.
Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord?
Je suis d'accord.
Pas moi.
Moi, je suis plutôt d'accord, j'ai baissé d'un petit peu de point de vue sur les Lakers. Alors je suis encore en mode c'est les favoris au titre, mais je les mettais bien au-dessus un peu de tout le reste, j'avais pas confiance dans les Clippers. Mais comme l'a dit Elias, les roleplayers m'inspirent vraiment de moins en moins confiance et ça fait peur. En fait, je les vois largement moins dominants qu'avant et ça va encore plus dépendre des deux monstres qu'ils ont. Et je pense que ça peut être compliqué en fait, en termes de profondeur et en termes d'apport.
Ouais, c'est ça dépend intégralement de leurs deux monstres, et derrière, c'est le néant, et à moins d'avoir des révélations. Moi, j'aimais bien sur les extérieurs le trio qu'ils avaient entre Bradley, KCP, Green. Tu pouvais avoir du Rondo en playoff. On sait qu'il a tendance plutôt à se bouger. Ça pouvait être intéressant. Là, ben, ils en perdent deux sur les quatre. Du coup, tu peux plus avoir de rotation défensive sur les extérieurs adverses à trois.
Et Green met pas dedans.
Et Green a été atroce. Il était à 0 sur 13. Il a mis enfin un panier.
Contre Houston,
mais wow, c'est compliqué, Green, derrière l'arc.
On balle un peu la défense. Moi, je trouve quand même que, par exemple, on critiquait les signatures. Bon, J.R. Smith, non. Mais Dion Waiters, par exemple, quand même, fait du Dion Waiters, ce qu'on peut en attendre. Ça restera un élément, je pense, non négatif, voire positif sur un banc pendant les playoffs. Un gars qui peut t'amener des points au moment où, bah justement, si AD ou LeBron ne sont pas sur le terrain, mais il y aura, même s'il y aura peu de minutes...
Non, ça n'existera pas. Des minutes sans AD ou LeBron...
Sans les deux.
Sans aucun des deux.
Ouais, moi, je pense que oui, quand même. Je pense qu'il y aura
aucun des deux.
Ouais, je pense qu'il y aura quand même des minutes sans aucun des deux. Mais après, je trouve que... Enfin, comment dire, tu vois, les Lakers, la peur d'Avery Bradley, ça leur a enlevé quelque chose qu'ils n'ont pas et qu'ils n'ont pas pu remplacer. C'est, tu vois, la navigation et le côté disrupteur pour chasser les extérieurs. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu regardes leur chemin vers pour aller par exemple en finale de conf, bah chaque adversaire qu'ils peuvent rencontrer, on verra après peut-être Portland, même si c'est pas, même ça, tu vois, ces équipes-là, elles ont un niveau bien moindre. Mais en fait, ils vont pas perdre tant que ça avec la perte de Bradley, puisqu'en fait, les équipes qu'ils vont affronter, il y a aucun meneur dominant en fait. Donc ce que lui pouvait apporter en défense sur les meneurs, la navigation, sur les sorties d'écran, sur le pick and roll, tout ça, en fait, ça, c'est un truc qu'ils en ont pas forcément besoin, en fait, puisque t'as aucun meneur créateur. C'est des joueurs de grande taille, donc ils ont quand même des joueurs envoyés sur ces joueurs-là. Après, moi, je trouve que peut-être qu'on surréagit un peu, parce qu'en fait, ces gars-là, ils savent que eux, en fait, c'est un plan sur 3 mois, en fait, qu'ils font eux.
Ils ont loqué le premier spot aussi.
Ouais, c'est ça, tu vois, c'est un plan. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'être à 100% dans 2 mois. Tu vois,
c'est vrai, mais après, ils ont vraiment été coupés dans leur élan parce que, si on se rappelle bien, juste avant le Covid, ils étaient arrivés à un niveau, ils avaient à leur tableau de chasse, les Bucks et les Clippers en l'espace de 3 jours, avec dans les 2 matchs, LeBron et AD qui sont énormes.
Ouais.
Et, même un joueur qui est vraiment passé de rien à quasiment tout à son niveau à lui, je me demande si sur la deuxième partie de la saison des Lakers, si KCP n'est pas le troisième meilleur joueur des Lakers. Parce que vraiment, il a commencé à mettre dedans.
Et c'est là où je vous coupe, parce qu'on a quand même des commentaires, et les gens parlent beaucoup. On en a deux, hein. Je tiens, comme un vrai YouTuber, je réagis. Il n'y a pas vraiment de role-player, surtout, vous dites The Pain Don't Lie, et qui réenchérait en disant, quitte à prendre une ex, valait mieux piquer Shumpert, pas Tokar Smith.
Par rapport à ce qu'a dit Tom, ils vont jouer des meneurs dominants. Hein. S'ils jouent Portland, déjà, alors le niveau Portland est plus bas, mais ça peut être problématique. S'ils jouent Houston, ça l'est encore plus. Hein.
Grave.
Ouais, c'est parce que là, pour le coup, là, les meneurs dominants, t'en as deux. Donc, et ça serait peut-être le pire match-up pour eux. Alors, ils pourraient dominer via Davis, mais ça serait peut-être problématique pour eux.
Après, ils ont qui à mettre sur Davis. Davis
en roue libre. PJ Tucker comme sur le match d'hier. Ouais, okay. Du taf, mais après, voilà.
C'est ta roue libre de Davis pendant ce match.
Utah avec Mitchell peut être chiant aussi.
Mais non, Houston sera pas 6.
Houston peut être.
Dès que Mitchell avait rouillé, il reste
3-4-5-6, tu vois.
Et est-ce que c'est pas une des équipes qui a le plus souffert de la coupure? C'est ce que nous dit un de nos commentaires sur
YouTube.
Mais même, tu prends même un autre aspect qui maintenant nous semble loin et qu'on n'a plus du tout. Il y a l'avantage du terrain, mais même, et c'est un peu triste de le mentionner, mais la mort de Kobe était une source de motivation pour eux.
Aussi, ouais.
Même tout ça, c'est derrière. Maintenant, je dirais pas qu'on l'a totalement oublié, mais sur le coup, c'était une vraie source de motivation. Maintenant que t'as 3 mois de coupure. Tout ça, c'est quelque chose qui a été plus ou moins digéré, le deuil a été fait, et maintenant c'est plus vraiment, même si je pense que certains joueurs des Lakers, notamment LeBron, doivent encore y penser, mais c'est plus aussi fort.
Il y a eu Covid et contexte social.
Après, si on peut faire évoluer le débat, c'est bizarre d'être présentateur avec tout le monde là, mais alors je veux pas être méchant avec vous les gars, mais je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui croient ici dans les Bucks. On enterre les Lakers, les Clippers, il y a un petit scepticisme.
Moi, j'enterre pas les Lakers.
Pas les Bucks.
On n'a pas fini sur les Lakers.
J'ai pas parlé sur les Lakers.
Voilà, surtout des roleplayers.
Moi, les Lakers, j'y crois toujours. Et parce que je crois à Eddie LeBron, c'est tout.
Ouais, ça.
Ah bah ça,
ce genre de
personne. C'est correct comme argument.
Genre, et Danny Green, KCP, et je me dis que bah, le souci c'est quoi? C'est plus de Rondo. Parce que ça veut dire Dion Waiters avec le banc. Et donc pas d'organisateur pour donner les ballons à ID, pour jouer avec Howard en pick and roll.
Non,
mais il pouvait servir dans des manières assez passables, des grands, et fluidifier un peu le jeu sans LeBron. Il y a pas ce mec-là sans LeBron.
Ah, mais moi,
Moi, je pense qu'il y a deux joueurs très importants pour les Lakers. Il va falloir qu'ils mettent des points et qu'ils défendent. Il va falloir que KCP défende et qu'ils mettent des trois points. Et il va falloir que Kuzma mette des points.
Et que LeBron soit le meilleur joueur du monde.
Et que LeBron soit le meilleur joueur des playoffs.
Ou LeBron ou Davis?
Non, LeBron. Parce qu'il est trop. En fait, c'est vraiment le moteur, tu vois. C'est vraiment le moteur, la pierre angulaire. Tu vois, Davis, limite, tu vois, il a plus son rôle de finisseur. On le voit quand.
Et il sera encore meilleur, justement, si LeBron est bon. À la rigueur, il pourra peut-être se hisser à son niveau parce que si LeBron attire toute l'attention, mais AD, il va se régaler. Il va se gaver.
La dernière fois qu'on a vu LeBron en playoff, les gars, il n'y avait pas photo.
Hein. Ah ouais, je sais. Ouais.
Il n'y avait pas photo. Hein.
Je sais.
Ah oui. Et oui.
Alors deux petites choses, déjà on dit bonjour aux gens qui arrivent sur ce live,
parce qu'on
salut
à tous.
On était alors notamment Blazers France et le fameux French Knicks podcast qui n'est
plus
notre ami,
salut Tom
le bro,
qui dit, je cite, what's up les rois en direct de la piscine avec cocktail à la menthe. Alors j'aimerais bien mais non, et encore une fois Off Mentality 69, peut-être, je le dis en anglais. Le Staples Center qui clame Kobe dans un Money Time de Game 5 ou 7, ça aurait donné un sacré booster.
Exactement. Le fait d'avoir perdu l'avantage du terrain, c'est pas deux logos Lakers floqués sur un parquet qui vont les rendre.
Mais d'ailleurs, pas de décision définitive de la Ligue à ce sujet, ou ce sera juste deux vieux logos sur le parquet et puis il n'y a pas d'avantage?
Bah, quand bien même, il y a un habillage.
Puis t'as les fans virtuels, les voix.
Quand bien même, t'aurais un habillage, ça remplacera jamais la présence des fans.
Ouais, je crois que c'est
un gros désavantage pour les Lakers.
Je sens que c'est Fournier qui disait ça, qu'à un moment, il était dans un match et il a fallu qu'il demande s'ils étaient à domicile ou à l'extérieur, parce que au final les logos, les fans, ça rentre pas dans leur champ
après,
de vision.
Après, je pense vraiment qu'on teste des trucs en ce moment. Il y a des tests qui ont été faits sur
l'image. Mais regarde, mais même par rapport à une équipe comme les Clippers qui sont censés être la vraie menace pour les Lakers en vue d'une confrontation des deux équipes de Los Angeles, même dans ce cadre-là, enfin, si les deux avaient été amenés à se rencontrer lors d'une finale de conférence. Ouais, lors des 7 matchs, ils auraient été, gros avantage.
Ouais, ils auraient été
voilà. C'est en ça qu'ils ont perdu, je trouve, que, au-delà de Bradley, de Rondo, de certaines blessures, etc., c'est vraiment cet avantage du terrain qui aurait pu leur permettre de combler ce petit manque de talent qu'ils ont par rapport à la profondeur des Clippers, par exemple.
Là où les Clippers ont pu reposer Paul George et d'autres joueurs qui ont pu mieux revenir, je pense.
Surtout, les Clippers ont un roster très changeant finalement au cours de la saison. Ils ont beaucoup plus bougé que les Lakers. Et là où je donnais avantage aux Lakers, c'était sur la continuité de leur saison, où ils n'avaient pas trop bougé, ils avaient quelque chose de stable, etc. Et les Clippers avaient un peu bougé. Coupure de 3 mois, cet avantage également est perdu.
Après, je ne veux pas faire le mec ennuyant, mais souvent, j'avais lu dans plein d'articles que l'avantage du terrain, c'est vraiment quand la série se joue à rien. Et
oui, Game 7.
Ouais, c'est juste dans un match 7 que l'avantage du terrain peut faire retourner une série. Et en l'occurrence... Je pense pas que ça.
Après, ça joue quand même sur les roleplayers, parce que ta routine est différente quand t'es à domicile ou à l'extérieur.
Ah, mais là, c'est la même salle.
Ouais, là, ça change pas grand
chose. Ce sera toujours une salle des Lakers.
Toujours une salle des Lakers, ouais. C'est juste, t'as pas les bannières au plafond.
Tu changes peut-être de vestiaire. T'as peut-être un vestiaire domicile et.
Après,
Non, mais tu vois, même, les Clippers, ils avaient quand même ajouté juste avant le Covid, ils avaient quand même rajouté Marcus Morris et Reggie Jackson.
Ouais.
Ils ont quand même une profondeur
Mais la profondeur des fois c'est trompeur, parce que c'est bien beau d'avoir 50 000 plans, mais si tes 50 000 plans ils fonctionnent que moyennement, et t'as une équipe qui a un seul plan et qui fonctionne,
c'est vrai que
aussi des noms et pas les joueurs,
c'est vrai que notamment les deux qui ont toujours pas fait de grandes choses depuis qu'ils sont arrivés aux Clippers, quoi. Donc à voir sur la longueur, en fait.
Quelque chose à rajouter sur ce débat Lakers, etc., parce qu'il y a quelque chose d'un peu lié de Fabrice F qu'on salue, qui nous demande: n'aurait-il pas fallu tester le format 1-16 cette saison pour rendre cette reprise plus intéressante?
Ah, j'étais pour, moi. Moi, j'étais pour.
Moi, moi je trouve que non, ça aurait, ça a... déjà que c'est bizarre là, ça aurait été trop bizarre.
Ça aurait vraiment fait laboratoire.
Ça aurait été besoin de repères et stabilité sur certaines choses. Ouais, là où t'en avais plein d'incertitudes sur les publics, plein de choses, t'avais besoin du truc fixe. Déjà que t'avais plié le truc, ça faisait beaucoup.
Et là où tu fais pas le 1-16, les raisons physiques qui font que tu fais pas le 1-16, pour t'éviter de te retrouver un Portland Miami premier tour qui est impossible. Les raisons qui font que tu fais pas le 1-16, tu les perds dès lors que t'as plus de bulles. Donc en fait, tu fais une avancée et tu vas reculer un an après et tu la reverras plus jamais. Donc je pense qu'ils ont voulu tester des choses qu'ils pourraient peut-être garder plus tard.
Alors qu'il fait extrêmement chaud dans la salle où on enregistre, on va être honnête, c'est une fournaise. Juste par rapport à 1-16, moi juste, si on le fait pas maintenant, on le fait jamais en fait. Donc on va rester dans une inertie totale pendant 50 ans.
Trop de révolution, Ben.
Ah oui, je
veux. Trop d'un coup.
Non, mais si on le fait pas là, alors qu'on est sur un. Enfin, je vois pas quand on le fait.
Peut-être que ça changera quand il y aura une expansion.
Après, le contre-argument, c'est que tu peux pas le faire maintenant parce que c'est pas des conditions que tu peux reproduire. Donc pourquoi tester un truc
Oui, mais... c'est peut-être pas dans les plans immédiats aussi. On en parlait souvent. La Ligue a cette problématique de son histoire, de ses statistiques, de tout ce qu'on veut, de ses palmarès, même de champion de division, champion de conférence, etc. Et c'est peut-être que le 1-16, ils se disent, bon, ça, c'est des tests à moyen terme, peut-être moyen long, plus qu'à court terme. Alors que là, les tests qui sont faits là, ils sont plus pour des projets, enfin, des changements qui pourraient être plus simples à faire dans les années qui arrivent.
Ouais, totalement, ouais. Après, il y a déjà eu des changements, tu vois, le All-Star Game, on n'y pense pas, mais ils ont déjà changé quelque chose au niveau de All-Star Game, donc ça a bien marché. Peut-être qu'ils se sont dit, il y a trop de changements, on a besoin de repères, on a déjà changé quelque chose avec le All-Star Game. On va y aller petit à petit, tu vois, il y a le play-in, comme tu disais, Pierre. Ça amène déjà un peu de dynamisme, vraiment. Donc, le 1-16, ça aurait été... Et puis, le 1-16, ça aurait été un peu injuste, je trouve, pour les Bucks. Je pense que ça aurait été injuste.
Ah, le défenseur des Bucks est là.
Non, pas du tout, mais ça aurait été injuste pour les Bucks, tu vois.
Bah, tu joues les Nets.
C'est vrai
que t'as pas commencé la saison en disant on va faire un 1-16.
Parce que tu te bases beaucoup sur des match-ups, en fait, quand tu prépares les playoffs, tu vois.
C'est ça, parce qu'on parle du point de vue de la Ligue depuis tout à l'heure, mais il faut aussi se placer du point de vue des joueurs. Il y a beaucoup, beaucoup de changements. Et là, pour les joueurs, quelque chose qui n'avait pas été prévu, en plus, un tel changement faisait encore plus d'adaptation à avoir. Et je pense qu'ils voulaient pas prendre de risque, déjà, que bon, la reprise, on voit qu'en termes de niveau de jeu, en termes d'intensité physique, en termes d'harmonie collective sur certaines équipes, et voilà, il faut un peu de temps, il faut quelques matchs, etc. Donc il faut que ça, voilà, il faut peut-être limiter un peu les tests. Et je pense qu'ils en ont discuté, hein, honnêtement, mais ça semble aussi raisonnable de pas tout mettre en même temps, trop de tests en même temps.
Alors on va peut-être continuer là-dessus. Alors que oui, comme nous dit Black, hydratez-vous bien. Alors je peux dire qu'il y a eu Alan a fait serveur là pendant parce qu'il fait 40 000 degrés. Je suis en nage pour être honnête.
On s'en parlait dans le corps de quel cousin.
Toujours Fabrice F qui nous demande, vous êtes parti trop vite. C'est vrai que le débat, on est honnête, hein, le débat Lakers a beaucoup animé ces dernières heures, donc on est parti là-dessus. Vous êtes parti trop vite sur les teams. Que pensez-vous du niveau de cette reprise? Vu qu'il parle beaucoup, je vais essayer de m'intercaler là vite fait. Pour moi, en fait, les équipes, elles n'arrivent pas à enchaîner parce qu'elles sont dans un truc, elles s'adaptent encore, ça tâtonne. Et on voit, il y a des aberrations où des mecs se prennent des éclats sur deux cartons, ils mettent plus rien. Enfin, on voit que tout le monde tâtonne et je me demande, ça va prendre combien de temps? Parce que si ça tâtonne sur un premier tour de playoff, c'est un peu inquiétant.
Ça tâtonne tellement que tu peux passer d'un match où t'as tout mis à un match où tu vas plus rien mettre du tout, quoi.
On l'a vu hier soir.
Je mettrais des astérix à ça, moi, c'est que, alors ça tâtonne, il y a des non-matchs, il y a des trucs un peu bizarres, mais je trouve le niveau de jeu plus que cohérent, notamment en termes d'intensité.
C'est correct.
Notamment pour les équipes qui jouent play-in, ou certaines équipes qui jouent le classement. Il y a des gros matchs. Dès le début, ça a commencé assez fort avec Portland et tout. Donc,
le Bad West.
Moi, j'étais plutôt convaincu de ce qui a été vu. Alors après, il y a des matchs, c'est un enfer. C'est voilà.
Pelican.
Mais il y en a pas mal que
hier, 19h, RIP.
Hier, on a regardé ensemble un Jazz Spurs.
Enchaîné avec OKC Memphis et 30 pions d'écart.
Après, on regarde ce qu'il y avait dans le match. Tu vois. Le truc, c'est que, en fait, ce sont des matchs qui comptent. Mais c'est comme. En fait, je pense que c'est pas pire que les matchs qu'on a généralement juste avant les playoffs où t'as une équipe qui fait tourner, t'as une équipe qui vient avec tout le monde qui joue un match et là t'as des gros blowouts et là même si t'as des petits blowouts mais t'as quand même des choses à voir en fait, donc c'est pas genre à part le Jazz là, qui repose hier et les Spurs qui jouent quand même pour le
play-in. Les Rockets qui n'ont pas fait jouer Westbrook.
Les Rockets, tu vois, ça c'est des trucs.
Le Brown jouait pas aussi.
Ça, c'est des choses classiques en fait qui arrivent en fin de saison.
Ouais.
C'est globalement, en fin de saison, les gens se reposent. Tu vois, les Bucks contre les Nets, ils font les titulaires jouer 15-16 minutes juste pour les automatismes, machin, et après au frais, tu vois.
C'est ça, c'est ça.
C'est comme ça.
Sachant qu'ils jouent un rythme élevé, là.
C'est ça.
Ça joue tous
en
les
fait, il y a qu'un seul mec qui a utilisé ces trois mois pour rentrer dans la salle du temps. C'était TJ Warren à l'entrée, il est ressorti, c'est TJ Harden.
Après, je pense qu'on est exigeant parce qu'il n'y a pas les camps qui sont pas là, en fait.
C'est exactement ouais, ce que j'allais dire.
Donc il y a que, enfin, je suis désolé, tous les soirs on est censé avoir
et les prétendus cancres nous surprennent comme les Suns.
Ah ouais, mais en fait, t'as les Wizards qui sont
cohérents.
C'est les premières équipes officiellement out, non?
Ils sont passés derrière.
Genre toutes les équipes, il y a un moment où t'as vu que c'était des équipes sérieuses et enfin, je sais pas.
Sauf les Pélicans. À part le premier soir. Contre le Jazz, ça va.
Les Pélicans, c'est un scandale.
Ils ont perdu.
C'est juste que défensivement, ils ont décidé de pas défendre.
Ils avaient le calendrier, ils avaient tout ce qu'il faut pour aller chercher le 8.
Après, défensivement, ils sont pas pires que Dallas.
Ah, si. Dallas, si, ils sont pires que Dallas. J'ai pas vu une défense.
Dallas, c'est un bon poste,
Dallas, c'est terrible. Mais c'est vrai que les Pélicans, en fait, ils font même pas d'efforts. C'est ça qui est choquant.
Il y a pas de.
Mais c'est une défense théorique, les Pélicans.
C'est ça,
Le truc, c'est que t'as plein de, entre guillemets, bons joueurs. Lui, c'est un bon joueur, lui. On l'aime bien, seul, machin. Et quand tu mets tout ensemble, ben, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Et, on comprend pas pourquoi, quoi.
Fabrice F qui nous dit, j'ai l'impression que seuls les teams de 8 à 13 de l'Ouest jouent vraiment le jeu. J'ai envie de dire, c'est parce que c'est celle, enfin.
Ils sont dans l'urgence.
Ouais,
voilà. C'est ça.
Ils ont quelque chose à aller chercher. Les sentiments de désespoir, c'est le plus fort, je pense.
Tu regardes Toronto hier soir. Ils sont scandaleux hier soir.
Et après, t'as encore des équipes comme Houston et Boston qui peuvent aller jouer des trucs pour justement éviter certains affrontements au premier tour. Mais après, sinon.
Mais ça, je sais même pas si les équipes le font vraiment parce que, enfin, c'est tellement bizarre que est-ce que t'as vraiment envie d'éviter les Sixers dans une bulle où c'est pas trop comment
mais,
ça
mais
se passe.
Les Cars par exemple vont enclencher le mode claquette, ils ont sécurisé leur spot maintenant.
Ils ont fait jouer des rookies, testent des choses.
Et... Là les mecs là ils sont en train de enfin, j'ai pas
ils vont pas aller risquer une blessure de LeBron ou d'AD.
Ils sont tranquilles. Là c'est juste des reps quoi, des répétitions, on court, cardio training machin. Et on se prépare un petit premier tour tranquille quoi. Voilà.
Justement, c'est plus compliqué aussi de faire exprès entre guillemets de lâcher des matchs ou de vouloir éviter des match-ups parce que tu dois te préparer. Là, on est encore en phase de préparation d'habitude. Ces calculs-là se font sur une fin de saison où tu connais tes rotations, les systèmes sont plus rodés, etc. Donc tu peux te permettre de jouer un peu différemment. Mmh. Là, on est en même temps en phase de fin de saison et en phase de préparation. Donc ça crée une espèce de paradoxe.
Ouais, c'est vrai.
Quelque chose d'autre à dire sur la reprise, les inspirations.
Bravo les Suns.
Pas grand chose.
Il y a quelques petites surprises. Il y a des mecs qui gagnent des contrats. Aussi.
De l'argent.
Qui gagne de l'argent?
Timothée Wokar.
Ouais. Voilà, le tableau que tu voulais suivre d'ailleurs.
Qui était annoncé dans la. Très bonne chose. C'est même lui qui en. Si vous regardez les previews, c'est qu'ils mettent en bas, là, avec, par exemple, Nets, machin arrive, c'est lui qui met en, c'est lui la star qui met en valeur.
Il a passé Caris LeVert.
Voilà, après Michael Porter Jr.
Ouais, aussi.
Ah oui.
Très fort, TJ Warren. Il y a certains joueurs qui montrent des belles choses. Ouais. Donc c'est peut-être plus ça aussi qu'il faut retenir, c'est les pertes de certains.
C'est vrai. Et puis moi j'ai entendu une formulation sur qui m'a bien plu. C'est-à-dire que par rapport au jeu, c'est-à-dire qu'on a un jeu quand même de enfin il y a une intensité un peu de play-off entre les joueurs entre eux, mais qu'on a un arbitrage qui reste un peu de saison régulière où les arbitres siffle peut-être beaucoup trop de choses.
Ah, aussi, ils sont en rodage.
Ça perturbe un peu le
on a retrouvé les arbitres NBA qui aiment bien se mettre un peu en avant, rappeler qu'ils sont des acteurs du match et parfois c'est vrai que ça crée des, il y a des matchs qui étaient un peu frustrants en termes de.
Par contre, les gars sont en roue libre,
Ils sont en roue libre, les gars sont
trash talk, machin.
Et même si on est à une époque où le shoot à 3 points est largement démocratisé, enfin, tu sens aussi que les mecs, ils en abusent, pour justement ne pas aller au contact, quoi. Tu sens que ça a envie de jouer tranquillement.
Il y a besoin de repères. Je pense que c'est une salle assez spéciale où ils sont. Il y a beaucoup d'espace sur les côtés et derrière. Il n'y a pas les journalistes par terre. Il y a pas mal de choses.
Ouais.
Ça doit changer beaucoup de repères en termes de tir de loin, de comment. C'est assez spécial. Si on a qui joue au basket, c'est dans différentes salles. Ça, je peux vite changer. Donc, je pense que petit à petit, ça viendra plus adroit et ça changera un peu les choses.
Même pour les drafts, tu vois, les mecs n'ont pas forcément peur de tomber, tu vois, il n'y a plus le caméraman, donc les mecs peuvent y aller un petit peu plus, quoi, tu vois, t'as pas peur de retomber sur la caméra et te blesser.
Alors, je vais me tourner vers deux personnes, Madiane et Alan, parce que Red Zoc nous dit, Porter, c'est pas une surprise. Donc, j'ai à droite de moi le défenseur officiel de Michael Porter, et Alan qui regarde, comme dirait Elias, des matchs des deux estoniennes, donc, il connaît, c'est pas une surprise. Est-ce que on a...
C'est une surprise quand même parce que c'est le dos. C'est le dos. Il a un syndrome du pied tombant qui lui a été diagnostiqué. C'est vraiment un dossier médical très compliqué. Les Nuggets ont pris le temps. À la draft, on a quand même son agent qui se baladait en de GM en GM
avec
le diagramme de son dossier médical. Enfin, c'est un dossier très compliqué. Donc, franchement, le voir à ce niveau, je suis surpris. En fait, sans blessure, je m'attendais à voir ça. Et là, avec blessure, j'ai l'impression de voir ce que j'attendais de lui. Donc, oui, je suis très agréablement surpris parce que le dossier médical est catastrophique pour ce joueur.
Est-ce qu'on peut pas le résumer en c'est une surprise médicale, mais pas une surprise sportive, finalement.
Tout à fait.
Quelque chose comme ça.
Ouais. Ouais, il y avait aussi le dossier hors terrain qui était un peu compliqué. Ouais. Changement de fac, oui. Il avait suivi le coach, il devait aller à Washington au début. Il suit un coach parce que le coach accepte de prendre le frère aussi là, du côté de Missouri. Ouais. Donc il est un peu leur terrain. Il fait un match de NCAA. Il fait un match, il se blesse toute l'année. Il fait un match au tournoi de conférence ici. En gros, on l'a vu 45 minutes. Mais c'est vrai que si tu écoutais ce qu'ils disaient avant sur les mecs qui étudient le high school et tout, c'était Luke Doncic pour le pic numéro 1, c'est vrai. Mm-hmm. Et je me rappelle quand on. C'est notre mock draft et tout ça, avec Ben et Tom.
Ben, tu l'as pris en deux.
Moi, non, je crois. Ouais, c'est ça. Pour moi, franchement, et je me tourne vers ce qui est à ma gauche, c'est criminel que les Bulls ne l'aient pas pris.
Non, à partir de 5. Moi, je considère que c'est criminel à partir d'Orlando. Mais Mobamba.
Même nous, les Pistons, on aurait pu le prendre, non?
Il est bien descendu, hein.
Il a été pick 15.
Voilà, ouais, c'est 14
Nuggets.
Nous, on pensait
13, c'est Jérôme Robinson.
Des Clippers, ouais. En fait. On pensait que c'était
les Clippers, ça leur prend Jérôme Robinson.
Ils ont pris Bridges
qu'ils échangent. Hornets contre Shai, et ils ont pris Jérôme Robinson qu'ils ont échangé là à Wizard.
Tu vois. C'est vrai, quand t'as deux choix, tu peux en prendre un pour prendre ce risque-là.
C'est ça.
Ouais, c'est pas une surprise dans le sens, c'est un joueur qui avait énormément de talent, comme vous l'avez dit, mais apparemment c'est une surprise dans ce qu'il produit maintenant, quoi.
Ouais. Que là, à 37-15,
c'est estimé être capable de tirer à 3 points, hein, il met tout.
C'est surtout plus de 30 points avec tellement peu de tirs.
Il fait tout, quoi. Il va jouer avec écran non porteur, il va aller lire la défense, etc. Alors défensivement, c'est beaucoup plus dur, et c'est ce qui l'a empêché de peut-être percer un petit peu cette année.
Oui, des fois, il retrouve
ce qu'on lui reproche.
C'est pas parce que t'es une superstar et you que tu seras une star NBA. Il y en a beaucoup des joueurs super forts au lycée. Hein.
Mais il y avait du talent, c'est ça.
Il y avait toujours du talent.
Tu m'offrais d'être. Non, c'était une tienne.
Mais après, tu vois, Denver, ce qui est intéressant, c'est que l'avènement de Porter Junior, là, ça a fort.
Il y a déjà un avènement pour toi?
Ouais, quand même. Enfin.
Je trouve
que la façon dont on parle des Nuggets depuis qu'il y a eu ça, c'est pas pareil que quand on en parlait il y a quelques semaines.
Il y a beaucoup plus d'espoir
en fait sur le théorie que si Porter Jr. devient meilleur que Nikola Jokic et Jamal Murray est ton deuxième meilleur joueur.
Même s'il devient leur deuxième meilleur joueur, si ton deuxième meilleur joueur c'est Porter Jr., le troisième c'est Jamal Murray, tu fais pas rire beaucoup de monde.
C'est surtout que le profil de Jokic et celui de Michael Porter dans ce qu'il a apporté, on a vu les jumpers, mais aussi sa capacité à aller au cercle, et avec donc la vision qu'on connaît de Jokic et les passes par-dessus, etc., ça ouvre tellement d'options, qui fait qu'effectivement ça rend un peu plus optimiste et ça rajoute un facteur qui était, on se posait la question là dans le podcast il y a quelques semaines que tu évoquais Tom, de savoir si Jamal Murray pouvait être constant à ce très bon niveau, si t'en as deux comme ça, parce que Michael Porter, on le rappelle quand même, il est très très jeune, on va pas attendre de lui qu'il plante 35-15 à tous les matchs non plus. Ouais. Mais
99.
Si. Bon, ouais.
Mais tu vois, un ailier qui a le bloc à 3 points, qui arrive à créer de la séparation régulièrement, qui peut aller au cercle.
Drafté pas au fit alors.
Voilà.
Drafté au talent.
Voilà.
Alors, on va jouer une petite devinette. Il y a deux questions sous Madiane voit dans l'écran, mais tu peux pas jouer, Madiane. Il y a deux questions qui sont adressées à des personnes en particulier. Ouais. Qui sont les deux personnes?
Mais non, il pour moi et Alan, non? Moi, j'aurais dit.
Oui, Alan, c'est bon, et?
Elias!
Non.
Tom,
bien sûr. Ah ouais. Bien évidemment. Johan T qui nous dit déjà, alors merci, sinon bravo à tous, mes trajets dans les transports en commun sont beaucoup plus doux avec votre podcast. Merci beaucoup, et il faut prendre les transports en commun, c'est très vrai. Bon pour
Masqué.
C'est très très bien. Masqué.
Masqué.
Bonjour, je fais partie de l'amicale des psychopathes des joueurs NCAA dont Alan fait partie et j'aurais souhaité savoir qui était son chouchou de la prochaine draft. Alan, je te donne 30 secondes parce que.
Easy, non?
Et je vous prends une scie qui est Kira Lewis.
Kira Lewis.
Kira Lewis, meneur d'Alabama. Très rapide. Il est meilleur que Colin Sexton au moment de sa draft. Et puis, non, super joueur que moi j'ai dans mon top 10, qui est un peu plus bas dans certains autres boards, mais ouais, très hyper joueur le plus rapide de la draft, qui peut pull-up à 3 points, qui joue bien le pick and roll, un peu frêle, mais.
Ouais, quelle taille?
Il fait 1,90 à peu près. Lui et Tyrell Terry, c'est mes deux joueurs préférés. C'est en gros, moi, des petits qui savent pull-up et jouer le pick and roll, moi ça me.
C'est ton kink.
Ça mérite les poils, donc voilà.
Et Tom, en quelques mots, parce que je pense que, à part la personne qui pose cette question, ça n'intéresse personne. Tom Taylor, parle-moi du cap space des Knicks. Je pense que tu peux deviner qui te pose cette question.
Quelle est la situation?
Il y a un lien au niveau du prénom.
Après, les Knicks, ça dépend ce qu'ils vont faire, parce que ils peuvent en avoir beaucoup.
Les options, mais n'importe quoi.
Il y a beaucoup d'options joueurs, en fait. Ils peuvent en avoir beaucoup cette année, classique, mais ça a peut-être pas d'intérêt d'en avoir cette année, puisque il n'y a pas forcément de joueurs à prendre, cette année à la free agency pour les Knicks, quoi. Bon, après, si c'est pour aller récupérer Chris Paul et injecter Chris Paul, pour moi, c'est une mauvaise idée.
Bah, est-ce que tu es d'accord?
Moi, c'est une mauvaise idée d'aller te soulager de 49 millions. Te soulager de 49 millions pour Chris Paul, 38 ans, c'est pas rien.
Non, mais en vrai, le problème des Knicks, c'est que, bon, bah, ça y est, maintenant, ils ont pris leur coach, donc ils sont partis sur un projet con.
Un projet court.
T'aurais qui? Tu voulais Atkinson, toi?
Fais un projet long terme. Moi, ça, c'est court terme, Thibodeau. C'est, tu prends un coach des années 2000, pour jouer en 2020. C'est n'importe quoi.
Ouais, mais en vrai, bon, moi, je salue Tom. J'ai été invité pour en parler. Franchement, c'est un tout petit peu rien que du sérieux que peut apporter Thibodeau.
On vend le sérieux, Thibaut.
Mais non, mais
ça s'est passé comment, Wolves?
Mais c'est pas très bien. Il les amène en playoff.
C'est ça le truc, il avait la double casquette.
Il les amène en playoff avec Jimmy Butler, Carl Anthony Towns, une équipe blindée.
Il avait la
double casquette. Dans un dernier match face aux Nuggets.
Ouais, qui est presque un miracle.
Ouais, mais ça, c'est à cause de la blessure de Butler.
Ouais, non, ils étaient
3e ou 4e.
Ouais, ils étaient 4.
Ils ont pas les mêmes joueurs, Ben, je te l'accorde.
Franck, Mitchell Robinson.
Non, mais puis on a entendu beaucoup de choses sur Thibodeau, et là, il y a eu une interview de Kerr il y a pas longtemps, qui expliquait que quand Wiggins est arrivé aux Warriors, il a eu un échange avec lui auprès de Thibodeau, et ensuite un échange avec Thibodeau, et apparemment, les histoires comme quoi ils s'entendraient pas du tout, et que c'était très dur entre Wiggins et Thibodeau, seraient pas nécessairement vraies, et qu'ils se sont plutôt bien entendus, etc. Donc on lui prête des fois, parce que, avec l'expérience aussi que j'ai, du point de vue Bulls, on prête des fois à Thibodeau cette image de coach très très dur. Alors c'est le cas sur ce qu'il exige de ses joueurs sur le terrain, mais tous les joueurs qui en parlent plutôt de la bonne façon, avec beaucoup de respect. Donc après, ça ne garantit rien en termes de résultats, mais
au moins lui, il n'oblige pas à faire des pompes.
Le truc, c'est que le projet, il est pas à ce moment-là. Leur moment, c'est pas d'avoir un général qui leur brise les parties.
Ils ont rien.
Atkinson, lui, il veut plus développer. Je
pense qu'Atkinson, il est pas pour la, et j'en l'avais dit quand on était à choix avec Adrien et Ben, je pense que moi, Atkinson, c'est pas le coach que veulent les Knicks dans l'étape où ils veulent aller. Ouais, c'est l'étape de maintenant, mais c'est pas dans l'étape où ils veulent aller.
L'étape de maintenant,
il peut les amener là.
Mais c'est la mauvaise stratégie de pas prendre Atkinson et pas développer tes jeunes.
C'est juste parce qu'ils veulent pas tourner leur veste parce que c'est le coach de Brooklyn.
Et niveau alternative, c'est ce que nous demande de Pen Longline, parce qu'on détruit.
C'est pas fou non plus.
Chris Finch, j'ai l'Aranyaga.
Il a même pas interviewé l'Aranyaga, tu vois. Il y avait l'assistant des Spurs, l'assistant de Dallas, un interviewé.
Mais pourquoi mettre un assistant? Les Knicks actuellement. C'est ça. Tu rêves sur des jump shots de Barrett. Enfin, franchement, faut te réveiller.
J'espère beaucoup de chaque free agency aussi. Bon, celle-là, en plus, elle est pas dingue. Mais souvent, chez les Knicks, c'est ce que disait Alan, ils se projettent dans un projet où ils se disent, bon, la prochaine free agency, on va avoir au moins un gros nom. Ouais. Et là, on va pouvoir y aller tout de suite. Et malheureusement, on voit bien que ça fait quand même plusieurs free agency que ça se passe pas exactement comme ça.
Tu dois développer, il faut qu'il y ait des assets, il faut qu'il y ait un environnement stable. Faut qu'il y ait quelque chose, et là, le gros poisson, il va se dire, mais en fait, si je veux une X, on est contender assez vite. Et c'est là où tu peux l'attirer. Mais en fait, le gars, le gros poisson, qui va venir au Knicks et qui se dit, bon, là, ils ont été nuls cette année, si je viens,
on peut peut-être raccrocher le play-off vu qu'on est à l'Est. Mais il va pas venir jouer une 8ème place.
Qui va faire le pari qu'avait fait Amar'e Stoudemire en 2010?
C'est le dernier.
Amar'e Stoudemire, c'est aussi une question d'argent. Hein. Ouais. Si Phoenix lui donnait ce qu'il voulait, il restait à Phoenix.
Non, 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 bien sûr.
C'est l'argent.
Bien sûr, mais...
signer des mecs cohérents NBA.
Mais d'autres joueurs qui cherchent de l'argent, il y en a depuis Tom. Il y en a eu plein des joueurs qui cherchaient l'argent. Mais comment se fait-il qu'il n'y en ait aucun qui ait signé Onyx?
C'est ça, la peut-être la peur de la pression, ou je sais pas, hein. Peut-être que c'est son...
La mal gestion de l'organisation.
Aussi, l'organisation.
Et moi, je pose une question. Est-ce qu'il y a un seul gars capable de garder la balle dans cette équipe et de la faire tourner dans un collectif? Un gars dans l'effectif d'Enix.
Un meneur de jeu, quoi.
C'est-à-dire, pour
l'instant, non.
Mais de toute façon, en termes de schéma offensif, il n'y aura rien de foufou, hein.
Avec Thibodeau. Ils ont même pas un gars qui est capable de garder la balle et de l'organiser le jeu.
Je pense qu'ils vont le drafter, et puis ça va être le projet, je pense.
C'est pour ça que moi, je dis que Chris Paul, c'est finalement pas si con, même si ça paraît idiot. Bah, au moins, t'as un truc, t'as une petite base, et tu te dis, bon, ok, bah, peut-être qu'il pourra mettre les autres joueurs dans des bonnes conditions.
On parlait de Thibodeau, mais quand je pense qu'ils ont même tenté Derek Fisher et son triangle. Ça, ils ont vraiment tout fait, quoi. Ils ont vraiment tout
tenté.
C'est incroyable. Ouais, c'est, bon. Ils sont...
Next.
juste, je glisse ça comme ça. Un assistant Onyx, les médias le tuent. Alors, ouais, moi, je suis pas d'accord avec ça parce qu'il tue tout le monde, en fait. Oui. Un assistant, Thibodeau, Dieu.
Le truc, c'est qu'Onyx, tu peux te planter, ça va pas nuire à ta carrière parce que tout le monde se plante Onyx. C'est le seul poste où tu
peux... Oui, mais en début de carrière. Même début de carrière, ça peut être un peu plus problématique. Tu vois, première expérience.
Derek Fisher, il a plus jamais trouvé de banc.
Ça peut être blacklisté un peu, là.
Parce qu'il était pas bon.
Et Phil Jackson, on fera plus jamais appel à lui.
Non, mais tu vois.
Oui, il faudra plus y aller non plus.
T'as des gars, leur image sera pas ternie parce qu'ils ont échoué au Knicks, tu vois.
Ouais.
Puis de toute façon, c'est la NBA. C'est la NBA, tu trouves toujours un poste.
Voilà, l'hypothèse et tout.
Alors,
dernière chose, faut arrêter de penser que Mitchell Robinson, c'est Hakeem Olajuwon. C'est quand même très important.
C'est Malone.
Non, j'arrive à prendre du retard alors qu'il n'y a pas beaucoup de questions, mais alors je vais juste glisser celle-ci parce que c'est une vanne. Salut Alan, es-tu vendeur pour la commode Louis XIV aperçue lors de l'interview de Kylian Tilly?
Ouh là là.
C'est la commode de chez mon arrière-grand-mère, donc un petit peu de respect, s'il vous plaît. Au moins il y avait une bonne Wi-Fi. Limite mieux que chez moi dans Paris des fois, donc.
C'est vrai, ça a sauté pendant mon live, donc c'est
vrai. Oui, tu vois.
Ensuite, je reprends Fabrice qui nous dit oui, je profite aussi de cette occasion pour vous remercier. Je vous écoute à chaque fois avec autant de plaisir depuis 4 ans. Changez rien, les gars. Merci beaucoup.
Merci.
Et je reviens sur la question de Flavien qu'on avait vu l'année dernière dans notre. Quand on avait.
Le gang!
Le Pascal ou
gang! Le gang!
Quand on s'était réunis, ce qu'on ne peut pas faire. Hein.
L'héros du Covid!
Avez-vous pour le moment un trophée Isaiah Thomas de la régression dans la bulle? Alors, pour l'anecdote, on en a parlé cet après-midi. Et il n'y en a pas.
L'entièreté du jazz. L'entièreté du jazz.
Dans la bulle.
Alors, ok, ils perdent Bogdanovic, mais c'est dramatique le jeu offensif de cette équipe.
Putain, c'est pas beau.
C'est dramatique. Ouais. Toute l'équipe. Ils sont dramatiques.
Bon, Gobert, il est pas.
Non, non, ouais.
Franchement, Gobert, moi, je trouve qu'il est
solide. Ouais, mais c'est pas lui qui va être très dangereux offensif.
Gobert en attaque, tu peux pas.
Ouais, mais après, c'est le deuxième meilleur joueur, il est pas au niveau, quoi.
Après, celui qui était censé être le meilleur, d'après Elias en début d'année aussi.
Incroyable.
On peut enchaîner par une question qui était liée à Thibodeau, on va revenir vite fait. Pour reconstruire une franchise, ne faut-il pas prendre un coach offensif? Ainsi, les joueurs pourront faire des stats et prendre de la valeur.
Ça dépend de ton proprio.
Ça dépend toujours de ton proprio, mais ça dépend aussi de ton effectif.
Ça dépend aussi surtout des joueurs que t'as, quoi.
Ouais, et de l'identité que tu veux donner aussi, parce qu'on sait que...
Nous, à V3, on peut ni attaquer ni défendre.
Ah, bon. Je suis sûr que tu défends sur Atlanta. Voilà,
prendre un coach défensif.
Un mec comme Borrego à Charlotte, je trouve ça pas mal ce qu'il fait. Ouais. Moi, je trouvais ça pas mal ce qu'il faisait cette année.
Ouais.
Donc, après, coach offensif, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vas jouer beaucoup en transition, tu vas jouer moderne, entre guillemets, tu vas jouer avec du spacing, ça peut être bien, hein.
Merci, The Pen Don't Lie. Ah non, on dit le wifi et pas la wifi. Merci beaucoup, c'est un de mes combats. On dit le wifi.
C'est vrai que moi, je dis le wifi aussi.
Ouais.
Les
internets aussi.
Mais pour revenir sur le coach, effectivement, enfin, c'est vraiment une question d'effectif. Moi, je vais prendre l'exemple Bulls avec Fred Hoiberg. Calmons-nous. Qui nous avait été vendu comme un coach offensif, justement, avec le fameux Hoiball beaucoup de mouvements et beaucoup de shoot à 3 points. Et après, on en pense qu'on en veut du coach, des joueurs, etc. Mais on lui a donné un effectif à base de Rajon Rondo, Dwayne Wade, Jimmy Butler, et Gasol. Et qui, pour le coup, ne correspondait pas du tout à ce qu'on pouvait voir de son offense en NCAA.
Ah oui.
Ou sur Montaigne.
De son, oui, de son, Oui, voilà, de ses stratégies offensives.
De son offensive.
De sa stratégie offensive. Mais donc voilà, donc c'est très plus important que pour la reconstruction, qui tu es, etc. C'est évidemment selon l'effectif que tu, auquel tu peux prétendre et que tu vas avoir. Je pense.
Parce que après, tu vois, le truc avec un coach offensif. En fait, quand t'es offensif, les gens s'en foutent que tu sois mauvais. Regarde les Hawks. Désolé. Hein. Quand tu, toi, t'es un bon joueur offensif, les gens s'en foutent que tu sois mauvais parce que t'es fun. Donc du coup,
faut être spectaculaire plus voilà. qu'offensif.
Si par exemple t'as une équipe, disons qui défend bien, qui a les mêmes résultats que les, enfin entre guillemets au global, mais l'équipe est plus défensive qu'offensive, et quand tu les regardes jouer, tu te fais chier parce que le jeu offensif ne te plaît pas. Tu vas dire ouais, ils sont très loin pour la construction.
Ce qui va se passer avec Casey à Détroit. Je pense que vous allez pas être super fun à voir jouer. À part que là, Charlotte,
l'équipe sera solide,
tandis que Charlotte, les Nets sous Atkinson ou Atlanta avec Trae Young, c'est fun à regarder.
Voilà, c'est ça. Entre guillemets. C'est fun.
Oui, mais Washington, ça l'est pas, ça défend pas.
Mais dans l'idée de, ouais, de faire monter les stats des joueurs pour peut-être après les échanger.
Ça, c'est pas bête, ça.
Ça, ouais. c'est pas ouais. débile, ça.
Mais après, les gens, je pense que les gens sont plus,
les frontaux sont
pas débiles. Plus au point rebond, là.
Si, si tu t'arrêtes à ça et tu regardes pas comment ils jouent, comment ça
débute. Voilà, c'est important. Ça dépend aussi le genre de stats. Drummond, il faisait des chiffres. On l'a eu contre John Henson et Brandon Knight. Hein.
Ouais.
Donc, ça dépend toujours des joueurs et de ce qu'ils produisent.
Ouais. Donc on va peut-être avancer parce qu'on arrive, on reprend du retard sur les questions. Blazers France qui nous demande un petit mot collégial sur Portland. Que pensez-vous des Blazers avec le retour de Nurkic et Collins? L'éclosion confirmée de Gary Trent.
Shout out à Gary Trent.
Point d'interrogation.
Ils y vont tout droit.
Ouais, là, ils sont à +8 contre les Clippers. Là,
non, mais en vrai. Memphis a du mal. Derrière, ben il y a les Suns qui sont bien, mais les Spurs ils ont un moment down, ils ont regagné hier, mais c'est pas forcément fameux finalement.
Et moi je te dirais que même là où je les voyais prendre, par exemple, ça corrobore avec ce qu'on disait sur les Lakers en début d'émission. Là où je les voyais prendre par exemple 4-0 avant le Covid, là maintenant je les vois bien prendre deux matchs aux Lakers.
Ils ont battu en saison régulière, il y a plus Bradley, ils ont des arrières et des gardes capables de shooter en sortie de dribble. Pour moi, ils peuvent les
empêcher. Ils ont pas d'armes pour AD.
Ouais, mais ils ont récupéré plus de
Ils ont pas d'armes pour pouvoir contrôler AD et LeBron, mais ils ont personne non plus pour pouvoir contrôler de l'autre côté de Lillard
et récupérer Nurkic. Nurkic Whiteside, ça n'a rien à voir.
Ils pourront jouer grand. Au moins,
voilà, mais Collins, t'as du monde à envoyer des minutes pour fatiguer un peu.
Ça peut prendre deux matchs aux Lakers.
Non, mais au-delà de prendre des matchs ou pas, pour moi, ils vont tout droit en playoff.
Oui, voilà, c'est ça, la question, elle est là-dessus.
Moi, je le vois le 8e spot. Si c'est pas les Blazers, je serais presque déçu maintenant.
Après, le format play-in, on en parlait entre nous, s'ils sont 9e, c'est compliqué. Il faut faire attention, tu peux toujours perdre un match.
Est-ce que vous pensez que c'est leur niveau réel, ça, ce qui monte là? Est-ce que vous pensez que c'est leur niveau réel? C'est le niveau qu'ils auraient eu toute la saison, par exemple, s'ils avaient tout le monde?
Je me permets de parler de Portland alors qu'ils ont détruit ma franchise.
On s'amuse pas,
même si on est devant eux. Non, je pense que c'est un niveau de au-dessus de leur niveau réel, parce qu'ils sont dans le mode on doit absolument gagner, on doit se sauver.
Le sentiment d'urgence.
Et je pense qu'au moment où ils seront qualifiés, alors ça sera les playoffs, donc il y aura quand même de la haute intensité, mais t'as plus supplément d'âme, j'ai envie de dire. Alors là, ce qu'ils montrent, c'est très intéressant, c'est vraiment bien, c'est très fort et tout. En plus, ils ont un peu de chance, par exemple, qu'ils jouent pas aujourd'hui. Enfin, tout va un peu dans leur sens depuis le début. Mais ils ont fait le taf pour que ça aille dans ce sens-là aussi.
Ils sont en train de gagner deux choses là avec ce qui se passe en cette fin de saison. C'est d'une, la 8e place, ce qui leur importe le plus, et en même temps du rythme, sachant qu'ils sont en train de ne pas relâcher la pression justement pour atteindre cet objectif. L'un dans l'autre, ça les amène au premier tour des playoffs face à des Lakers normalement qui certes ont déjà depuis longtemps validé le premier spot, mais qui n'auront pas forcément le même rythme et la même alchimie que ces Blazers. C'est en ça que je vois Portland être un petit peu plus fort que
et plus que ça. Je pense qu'ils ont aussi gagné une troisième chose, pas que deux en fait. C'est ils ont redoré l'image de leur saison en fait avec ça. C'est-à-dire qu'ils auraient pu prendre un peu cher sur ils ont joué en dessous de ce qu'on attendait. S'ils font pas les playoffs dans le rythme où a été partie la saison. Là, avec l'intensité qui monte, s'ils arrachent les play-in, même s'ils jouent les Lakers et qu'ils perdent, on s'attend à ce qu'ils perdent. Donc, de toute façon.
Après, s'ils perdent contre Memphis en play-in,
ça va être plus compliqué. Mais a priori, arriver en play-in par rapport à leurs concurrents directs, ils semblent quand même être les plus solides.
Ouais.
La question, c'est si t'es 9e, effectivement, tu peux toujours perdre un match. Mais s'ils sont 8e, je vois pas une équipe leur mettre un 2-0 sec. Même les Suns qui pourtant jouent très bien, il faut le dire aussi.
Ouais.
Mais mettre un 2-0 sec à Portland, ça me semble compliqué.
On va enchaîner. Alors, on a une nouvelle question dirigée pour Monsieur Pierre.
C'est moi.
Denver ou Houston, le meilleur match-up pour OKC en playoff?
Denver.
3-2-1.
Denver. Ça, c'est Constant qui donne bien posé. C'est avec qui j'ai fait le live.
Exactement. Non, mais... il y a des connexions, clairement. Hein,
non, moi, je suis pour
Adrien, Ilias, Madian et moi-même. On ne s'aime pas. On a pas de questions.
Alors, c'est alors parce que sa franchise, et puis sa franchise. c'est pas pour Adrien et Elias.
On n'a pas d'actu.
Donc, voilà, il n'y a pas d'actu. Et puis Ben et moi faisons partie des gens qui regardent
le chaos de la NBA. Du coup, ça fait des fans d'Orlando. Voilà, ma seule source d'information actuellement, c'est Alan qui me dit ouais, gros, prenez tel mec lors des futurs drafts. Je suis en train de me hyper totalement, mais
avec le 45e choix, il y a un gars.
Voilà,
du coup, ça parle des années 50.
Voilà, c'est ça. Ça
parle. Mais attends, mais si vous avez un nouveau GM.
Oui, exact.
En provenance
de chez Pierre.
Et nous, on va garder l'actu un peu inquiétante. Par contre, c'est ces coups où il a l'air de s'être passé des choses un peu étranges pendant la crise.
Avec le score.
Il est en train d'emprunter une pente Ben Arfesque.
Non mais en tout cas avoir enfin en tant que joueur NBA, en plus joueur NBA plutôt situé dans l'avenir de ta franchise, te faire larguer par tes agents. De leur initiative, c'est
il a un petit peu pété un câble
pour l'image. Pour l'image, c'est pas typique.
Non, mais au-delà de l'image, c'est que c'est inquiétant. Ouais. C'est inquiétant, c'est-à-dire que ils préfèrent ne pas le représenter pour s'éviter des emmerdes.
Ouais. C'est ça.
Alors, messieurs, si on fait des questions sur, si on passe 10 minutes sur les questions là, on est un peu dans la sauce, hein, comme disent les jeunes.
On est
sauce. Ad Ben, je repose cette question. Vous arrivez à vous remettre dans la saison NBA?
Ouais.
Perso, j'ai vraiment du mal. Fabrice.
Okay. Ouais, j'avais peur, on en a parlé entre nous. Hein. Ouais. Moi, j'avais peur, mais j'y suis.
J'ai saigné le League Pass.
Moi, j'y suis pas encore.
C'est là qu'on voit, voilà, c'est vraiment en fonction de chacun. Moi, je suis un peu comme Fabrice. Ouais, j'ai pas encore réussi à m'y remettre. Enfin, normalement, on est au mois d'août. Normalement,
ouais, après, c'est ça,
on est à une période de l'année où on a totalement relâché la pression, où on en a plus rien à cirer de tout, si ce n'est des barbecues et des piscines, tu vois.
Et autres. À la télé.
Après, ce qui va être encore plus bizarre, c'est en octobre, novembre. Quand il n'y aura rien, quand t'as de la pièce, après les finales, ça va être bizarre.
Après, il y aura peut-être
le foot va peut-être comprendre.
Le retail billet classique, ça va faire comme la saison lookout, où ça avait repris le 25 décembre.
Tu seras dans l'attente. Encore que là, tu auras une date fixe, mais ça sera peut-être spécial à ce moment-là. Mais là, moi, je me suis bien remis.
Ouais, on avait dit qu'on avait un peu peur du format, du son, etc. Finalement, je trouve que les espèces de son d'ambiance, etc., pour rendre
la salle, c'est pas vide.
Ouais.
En termes d'infrastructure, ils ont assuré parce que franchement, je pensais que ça allait résonner creux un peu, tu vois. Ils ont quand même réussi un certain habillage, tout ça. Et je trouve qu'on commence à s'y faire. Voilà. Mais après,
hype, non.
On prend ceux qui ont des petits chiens.
Moi, j'aime bien, tu vois, genre, le cri, des fois, t'entends le cri des bancs, tu vois, quand il y a des gros shoots,
quand
les mecs gueuler, tout ça, c'est sympa, tu vois, c'est vraiment super convivial.
Alors, le French Knicks Podcast qui nous dit, j'entame le barbecue, bon appétit. Forcément. D'ailleurs, qui nous avait dit plutôt, Fred Hoiberg, c'est comme Fitzdale, des fraudes. C'est vrai qu'en tant que fan des Knicks, il est bien placé pour juger. risque-t-on d'avoir un champion surprise cette année?
Non.
Enfin, ça dépend ce qu'on appelle surprise.
Non, mais plus sérieusement, au-delà des deux équipes de Los Angeles
et des
Milwaukee et peut-être Houston en Dark Horse, qui peut gagner?
Personne.
Houston, j'y crois.
Et encore, Houston n'est pas mal des
meilleurs. Dis-le plus fort, Ben.
Ouais, Houston, j'y crois absolument pas.
Non, mais Houston et personne diront que ce serait une énorme surprise. Hein. Il y en a peut-être qui diront Denver, mais j'y crois pas.
Après, Houston,
et peut-être Toronto. Il y a pas mal
de Toronto. Si MPJ, ça devient Kevin Durant, ouais.
Ah, mais tu dis son troisième.
Ouais, mais si tu veux, Houston, c'est une équipe de variance. Les équipes de variance qui ont Jeff Green.
Denver.
Ah,
Denver, je sais pas.
Denver.
Non, mais tu comptes trop sur MPJ, c'est un rookie.
Je vois pas
une autre de ces trois équipes gagner 16 matchs.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on en parlait un peu entre nous là cet après-midi, parce que c'est plus un secret, on discutait ensemble de Houston. Et ce que je disais, c'est que Houston, c'est possible théoriquement, on peut y croire, mais il faut que sur trois séries, tout se passe bien, et trois séries de suite, parce qu'il va falloir à un moment taper les deux Los Angeles et la finale. Donc comme tu disais, statistiquement, en termes de variance, très compliqué pour que ça se passe bien.
Il y a trop de variance, c'est une équipe qui est soumise à trop de variance, il y a trop de répétitions. Où il faut que la variance soit
positive.
Après, t'as Boston qui peut peut-être peut-être faire un truc.
Je crois plus en
t'as donc c'est coupé les cheveux, donc ça va, tu vois, ça va mieux, tu vois, ça, voilà, ça change un peu le truc, mais.
Parce que le mec, c'est pas Sanson, quoi. Voilà, non, non, mais il fallait qu'il fasse quelque chose.
Non, mais Toronto, c'est vrai que c'est sympa, mais Toronto, ils ont ce problème dont on parle souvent, c'est qu'en playoff, ils auront jamais le meilleur joueur sur le terrain.
En fait, Toronto, le truc, c'est, ils explosent tout le monde en transition.
Oui, il y a
sauf que, quand tu vas jouer contre des bonnes équipes, bah, toutes les transitions que tu avais, tu en auras moins, donc du coup tu pourras moins facilement exploiter les transitions et tu seras plus réduit à du demi-terrain. Et Toronto sur demi-terrain, c'est pas une très bonne équipe en fait pour l'instant. Ils ont pas le Kawhi de l'an dernier où quand c'était bloqué sur demi-terrain, t'avais le gars qui avait le mid-range,
enfin,
le mid-distance, tu vois, qui. Ouais. Faisait le,
on parlait de la série contre les Sixers, il fait un chantier, ouais. Quand même, il faut se rappeler, au-delà de...
C'est une problème qu'il a redit toute l'autre fois quand on parlait.
Mais c'est n'importe quoi, de toute façon, l'an dernier, les playoffs, ils se tapent des équipes qui ont les meilleures défenses à l'aile, limite de la ligue, coup à coup. Ils tapent Orlando, la défense à l'aile d'Orlando, elle est élite.
Mais ils mettent pas en panier.
Oui, c'est ça, dans les 4 cas, les attaques ne mettent rien.
Bah oui. C'est ça qui me dérangeait, moi, avec Toronto l'an passé. C'est que Philly, on peut dire ce qu'on veut.
Ah, donc... allez, il est parti. Il attendait.
Par exemple, l'équipe à la cloche.
Non, mais l'année dernière, ils auraient dû passer, mais pour moi, il y a eu des manquements à certains moments. Ils doivent tuer la série.
Non, mais c'est ce qu'on se disait hier. Ouais, ouais. Il y a 2-1, et il y a 2-1, et vraiment, Toronto est dans le caniveau à 2-1. T'as le game 4 chez toi et tu le gagnes pas.
Avec le shoot de Kawhi.
T'as Brown qui sort des. Désolé, je tape
sur. Non, mais moi je veux dire qu'il doit faire jouer.
Je coupe là parce qu'on avait une question. Étant fan des Sixers, que pensez-vous de Brett Brown et de son coaching? Vous pouvez continuer.
Ah, moi je suis pas fan des Sixers, mais.
Oui, ça on sait.
Moi je trouvais que j'avais pas mal échangé avec des comptes des Sixers. On s'était écharpé même sur Brett Brown assez violemment. Où on m'expliquait que c'était un coach qui était assez créatif dans certaines choses, en sortie avec Ben Simmons, il tirait le meilleur avec cette espèce de schéma. Moi, je trouve quand même que, après, c'est toujours la question, est-ce qu'il y a mieux, c'est qui? Mais je trouve que, ouais, il est un peu limité, et en playoff surtout, contre Boston, il y a 2 ans, il est responsable de certains line-up de fin de match pas exceptionnels, et l'an passé contre Toronto, je trouve que, voilà, il a pas su mettre en valeur à chaque fois, tout ce qu'il avait en main. Donc,
les mecs sont un shoot, hein, les gars. C'est un robe 4
points. Non, mais les gars sont un shoot. Mais en fait,
le shoot est trop court.
Mais au-delà de ça, il doit jamais arriver au moment de ce shoot.
Ouais, c'est vrai.
Sur le papier,
en fait, il y a quelque chose de dramatique pour Philly, c'est qu'il rate le coche, enfin, de leur histoire récente à ce moment-là. C'est cette série qui aurait pu tout changer pour eux. Notamment par rapport au fait,
ici, tu vois,
même par rapport au fait, tu vois, par exemple, de conserver un mec comme Jimmy Butler, qui actuellement, en plus, aurait tout changé. Du coup là on est d'accord sur une chose, je pense que soit Philly fait quelque chose ou arrive à faire quelque chose lors de ses playoffs, ou soit
je pense pas qu'ils vont exploser l'effectif mais ils vont changer le coach.
Non, exploser l'effectif, tu sais, enfin par exemple changer un joueur, ce n'est pas exploser l'effectif, mais on part du principe que ça devient compliqué de faire cohabiter les deux superstars que sont Simmons et
surtout
les zigotos.
C'est surtout que Ford sert à rien au milieu de ce bordel. Après,
pour revenir à la question,
mais lui, il sera beaucoup plus dur à bouger qu'un des deux autres.
Bah oui, évidemment.
Pour revenir à la question sur Brett Brown, moi je suis à sa décharge, son effectif, il est, enfin c'est
difficile, des effectifs faciles.
C'est super dur.
Il y a eu des effectifs hybrides.
Alors que quand on voit par exemple qu'Embiid n'est pas là et Simmons est tout seul, il y a eu des très bons matchs où ça joue super bien offensivement avec du spacing et tout.
Ouais, je pense pas que tu peux le trouver mieux, mais je crois pas qu'il est exceptionnel.
Bah, après, tente une dernière carte là.
On pouvait que c'était un coach élite. Après, c'est pas un coach, je pense, qui va mettre des systèmes après temps mort ultra compliqués.
Il vient de l'école Spurs, Brown, non?
Ouais, mais je suis pas sûr qu'il te mette ça en place avec Simmons et Embiid. Ça va plutôt être des choses simples.
Il y a
certains coachs qui, pour l'instant, n'ont pas montré de valeur, on va dire, offensive dans les systèmes parce qu'ils n'ont pas besoin. Quand t'as Simmons et Embiid, tu vas pas mettre des grands systèmes en sortie d'écran de machin. Tu leur donnes la balle, ça suffit.
C'est le théorème Spolstra.
C'est ça, même avec Tony, tu vois, avec Harden. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à faire?
On a eu ce problème-là.
Je glisse ça pour Alan. Les Celtics, c'était en réaction au débat qu'on avait avant sur les équipes qui peuvent peut-être accrocher le titre.
Ouais. Pas de profondeur, malheureusement.
Il faudrait qu'ils signent un peu avant.
faudrait qu'il signe un joueur top 10.
Comme t'as dit, Hayward, hein. Ça dépend des Hayward et
Finney. Hayward, pour moi, c'est Hayward qui est clé.
Ça dépend des Hayward et Finney.
Parle-nous un petit peu de Canter.
Je veux plus voir Canter sur le terrain, c'est tout. Même avec le banc.
Tu serais donc devenu turc.
Non, mais là, il a qu'un turc, c'est sur votre chelou. Qui lui sert à manger, c'est pas Canter.
Non, mais pour moi, on a 5 super joueurs. Thaïs qui est là et qui fait vraiment du super taf, je trouve. Et après, c'est très limité. On l'a vu hier, contre Toronto, on joue à 7-8, avec juste vraiment Wanamaker et Robert Williams. Et après, il n'y a pas de joueur, c'est simple. On va pas jouer avec Romeo Langford, avec Carson Edwards, avec Javonte Green.
Après, ça devient un petit peu moins problématique à l'approche des playoffs. Enfin, la majorité des mecs vont jouer 40 minutes, quoi. Enfin,
surtout à Boston.
Il y aura très, très, très peu de rotation.
Quand on va en playoff en 2018, on joue à 6.
Ouais. Surtout, t'as 5 mecs qui jouent à l'aile, quoi. Enfin, t'as 5 mecs.
Oui.
Qui peuvent 4, défendre 4,
4 qui, mecs qui peuvent défendre
généralement
il faut rajouter Langford qui peut défendre surtout à moins de moments où Jelayé se retrouve avec
Semi va jouer
si t'as un ou deux joueurs ton 5 majeur sur le terrain c'est déjà le problème si là t'en auras presque tout le temps 3 tu vois et ouais. Du coup t'as Wanamaker à côté
même,
voilà c'est bon
Jelayé va jouer pour défendre
voilà. On arrive en playoff généralement t'es 8ème 9ème et 10ème joueur ils jouent de moins en moins ils voient très peu le terrain si ce n'est lors de blowout donc
après à voir dans la bulle puisque visiblement tu vois les conditions de récupération sont différentes. T'as peut-être pas accès à tout ce dont tu aurais pu avoir accès si jamais tu n'étais pas dans la bulle, tu vois.
Ouais.
Les massages, les cryogénies.
T'économises.
T'as vu les Blazers avec les
voyages. Des chambres qui sont hyper barres et tout.
Oui, avec l'oxygène et tout.
Parce qu'en fait, on se rend compte que, tu vois, quand on a parlé, les équipes, le deuxième jour ou le troisième jour, toutes les équipes qui avaient déjà joué avant, ben. Elles se sont faites exploser, tu vois, les Lakers sont perdus contre Toronto, Utah aussi. Bah, en fait, tu te rends compte que, le facteur récupération, je pense qu'il est vraiment très important, en fait, dans la bulle, où, à partir du moment où tu as l'avantage du repos, tu as vraiment un avantage pour gagner le match.
Après, c'était une reprise aussi.
Oui, c'est ça, c'est qu'ils sont pas sûrs, on voit de la forme physique de chaque joueur.
Ils vont réagir et tout ça. Voilà.
On voit que du coup, ceux qui ont lock leur place, là, les Lakers qui reposent des joueurs, la Kawhi qui joue pas aujourd'hui, là, pour les Clippers. Il y a la prudence est de mille, à ce niveau-là.
The pain don't lie, hashtag géopolitique, qui nous dit Dunk Hebdo est pro Erdogan, je vois, hashtag. Ça ne nous regarde pas. Ensuite,
mais cela ne nous regarde pas.
Toujours parce qu'il faut s'adapter entre le recul, entre les questions, les débats, etc. Ok, ici, sur un malentendu, laissez-moi rêver. Non.
Oui, non. Si, ça peut passer un tour, hein.
Oui, un tour. Non, mais le titre.
Ah, le titre.
Ah, le titre, non. Deux sur un malentendu, on a regardé hier sur.
Oui, si tu tombes du bon côté, que t'as des blessures, tu vois, le premier tour peut être, franchement, il peut passer. Ça m'étonnerait que c'est au moins deux matchs. Après, c'est le deuxième tour qui m'inquiète.
J'ai pas d'affection particulière pour OKC, mais ça ferait plaisir quand même, juste pour Chris Paul. Hein. Je vous le dis assez en off, mais voir un mec comme Chris Paul titré.
Bah, je pense qu'on est
il y a pas de notion dans les grilles de
parce je pense qu'on est tous
non mais c'est pas ça c'est
spoil, non en fait le moins partisan Chris Paul c'était moi
ouais non mais il a Chris Paul ici Chris Paul.
Il a une très grosse base de haters
ouais
mais enfin on met tout ça de côté on regarde juste le joueur le basketteur c'est
mais moi je suis pas d'accord avec le concept de il mérite un titre en fait c'est non
oui,
il n'y a pas peut-être. De titre.
Non, mais c'est un souhait personnel.
Ouais, mais en fait
c'est un souhait personnel
surtout qu'il aurait dû gagner en 2018. Il n'y a pas de il ça fait mal ça oui, fait mal il n'y a pas de il n'y a pas de
un coup du sort en fin de game 5 en fait j'arrive pas à avaler en fait s'il avait perdu sportivement je l'aurais avalé mais là il a pas perdu sportivement mais
c'est l'histoire de la ligue c'est les Kings face aux Lakers c'est l'histoire des de voilà de tout un tas de titres ils sont joués à rien et au final
breaking news Simmons va se faire opérer du genou
ok
adieu les Sixers.
Bon. Oh, le rictus d'Alan!
On voit la classe des supporters.
T'es vraiment une ordure.
ça fait une CV qui nous dit qu'il veut pas aller jouer les Sixers et maintenant il veut les jouer.
Alan, bon, attention, dommage, parce que même sans Simmons, Embiid peut faire un chantier aux Celtics.
Question du French Nick qui te pose beaucoup de questions. On voit qu'il y a une affection particulière entre
les deux. On s'aime bien, on se sait.
Il aime bien les bisous.
Canter, il a un avenir en NBA. Parce qu'il fait ping-pong depuis ses débuts dans la ligue, Utah, OKC, Knicks, Portland, et now
Celtics. Alors, on est caution Montaigne. French
Knicks Basket. Maintenant.
Maintenant. Ça fait beaucoup pour un joueur de 26 ans.
De tout ce temps.
Ouais, je sais pas. Oui, il peut peut-être prendre une mid-level ou un minimum, mais. Ouais. Est-ce qu'il veut pas venir en Europe tout péter, genre?
Il faut qu'il puisse retourner.
En NBA, je sais pas.
Pas jouer au Fener avant. Ouais. Non, après, Cantor, faut qu'il ait une bonne situation. Parce qu'à OKC, il a été.
Oh, la chaleur.
OKC, il a été important pas mal de temps et après, ça s'est mal fini, notamment en playoff, il pouvait pas jouer. L'année dernière, à Portland, il a été bon. Et même parce qu'il jouait énormément en drop, il a été bon offensivement à progresser. Et là, c'est beaucoup plus difficile à
bosser. Et parce que Portland n'a pas des grosses
aspirations offensives. Il a quand même un avenir NBA où dans certaines équipes, peut-être même plus faibles, mais qui ont besoin d'un pivot.
Pivot backup. Un pivot besogneux qui est fort rebond et qui met des points.
Donc ce n'est pas fini.
Le poste de pivot ça a changé hein.
Tu le mets Hornet, s'il a besoin de défendre il apportera en attaque hein.
Ouais, c'est William Hernan Gomez un peu meilleur en attaque quoi.
Ouais. Après il est pas meilleur que Zeller
Question de Fabrice F, n'avez-vous pas
toujours aimé Zeller,
n'avez-vous pas peur que des allers-retours des joueurs dans la bulle faussent les playoffs? Personnellement je pense pas parce que je pense que les conneries, désolé, parce que on a le droit de le faire ce soir. Les conneries à la Lou Will, ça passe sur une fin de saison régulière. Ouais. Il va pas faire ça sur un second tour de playoff.
Une fois les playoffs,
il y a que Dennis Rodman qui fait ça pendant les playoffs.
Après, les playoffs commencer, il y aura plus.
En même temps, il fallait le comprendre.
Et il y a des extra. Et puis, comment tu peux résister à des Wings, franchement?
Ouais, ça c'est énorme.
Voilà.
Ça c'est énorme.
Les Wings.
Il dit qu'il a été les Wings du Magic City.
Comment tu peux résister aux Wings des Strip Club?
Est-ce que s'ils sont pas menés 3-1 dans, tu sais, 3-1, il amène tout le monde là-bas pour une réunion d'équipe. Un séminaire.
Attends, c'est pas Harden qui a son maillot retiré aussi dans les Strip Club?
Un buffet de Wings.
Non mais après, après sur la question, il y a les allers-retours aussi familiaux là, ouais, Schroeder, là, c'est leurs enfants, ouais. Etc. Bon, a priori, fois que ça c'est fait, ils vont pas.
Je pense qu'en playoff, les mecs vont plus sortir.
Ouais, probablement.
C'est vrai.
S'ils font ça maintenant, c'est que c'est. Voilà.
Par exemple, Williams qui sort, c'est parce qu'il sait qu'en gros,
Barrett qui revient pas maintenant, c'est que si t'avais plus.
Par exemple, Jamorent, il me semble, il y avait l'anniversaire de sa fille. Voilà, il a raté les 1 an de sa fille, donc lui, il a fait le choix parce que. Voilà, bon, après, c'est un choix qu'on critique, qu'on accepte.
Ils arrivent à mettre leur famille
dans les familles officielles, donc
des belles images. Donc
enfin, je précise ce qui est horrible, qu'il ait à faire ce choix.
Oui.
mais il l'a fait parce que, Memphis joue, il faut jouer, les matchs comptent tous. Donc, du coup, il a décidé de faire ce choix, mais ce qui prouve, je pense, comme tu disais, Pierre, que, une fois arrivé en playoff, la plupart des joueurs diront, bon, allez,
fini les bêtises. Il aura offert la victoire.
On parlait de Mike Conley, justement, c'était dans un commentaire il y a plusieurs dizaines de minutes de French Knicks Podcast qui est en train de, qui own, comme on dit, comme ne dirait pas Montaigne, qui domine les commentaires. Est-ce que c'est pas Mike Conley, la régression de l'année?
On n'est pas au niveau du trophée Isaiah Thomas. Après, je pense que Mike Conley, c'est par rapport aux attentes qu'il y avait sur lui en début de saison et ce qu'il avait fait la saison dernière à Memphis. Je pense pas que c'est lui la régression de l'année puisqu'il est quand même bien revenu. Cette saison, et c'est un joueur qui est encore positif. La régression de l'année, c'est le joueur devient un joueur négatif, tu vois.
Ouais.
Donc, je pense pas, non. Moi, j'aurais plus dit, genre, un gars comme, tu vois, Markif Morris.
Parce que Markif, il était pas bon les dernières chez nous.
Bah, là, c'est encore pire, tu vois. Markif Morris.
C'est vrai qu'on le mettait en bonne signature pour les Lakers, il est transparent, quoi.
J'avais oublié qu'il
jouait. Ou alors, il y a Kevin Knox.
Après, il joue pas beaucoup, hein. Ah,
Kevin Knox, peut-être. Mais c'est pas que de sa faute à lui. Il a très peu de terrain,
Fresh Knicks podcast déteste Kevin Knox. Il va vriller dans la barre de commentaires.
Oui, mais pour le coup, Kevin Knox, l'année dernière, il y avait des moments.
Peut-être Thad Young, mais on n'est pas encore à ce stade-là, parce que Thad Young, quand il a été signé, il y avait vraiment de belles aspirations. C'était un titulaire, un joueur vraiment référencé dans une équipe.
Oui, un vétéran.
Vétéran respecté. Et visiblement, ça s'est marqué. Alors, Ford, peut-être. Mais après, c'est dur, alors, je pense que c'est plus lié au contrat. S'il était à la mid-level, on n'en parlerait pas comme ça.
Oui, mais je maintiens que
il y a cet effectif des Sixers.
Et puis, on te paye pour la tâche.
Pour ce que tu vaux.
Pas vraiment.
Dans une entreprise, dans la vie de tous les jours, si on te paye 10 000 ou un SMIC, il n'y a pas les mêmes sur le même
temps. Il n'y a pas les mêmes attentes.
C'est ça.
Ouais. Clairement.
Et justement, Pierre a dit, c'est ça, je relance. entre nous, et c'est un, je pense que c'est un dilemme que je me posais personnellement, entre nous, Pierre. En cas de duel OKC Rockets, tu seras pour qui?
Je suis obligé d'être pour OKC, mais j'aurais, en fait, j'aurais une part de déception dans les deux cas parce que, bah, si OKC perd, je serais déçu, et si OKC gagne, je serais content, mais on sort encore Westbrook au premier tour. Et j'ai envie de le voir un jour gagner un titre aussi. Donc...
Ça te dérangerait pas de voir Houston gagner?
De manière, émotivement, c'est la série que je veux pas voir, vraiment. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Kevin Knox a pas le niveau Pro B.
Désolé, mon cher partisan.
Kevin Knox, il est plus grand que les pivots de Pro B. Juste,
Moi, et... j'y crois encore à Kevin Knox.
Et la bonne vague de Red Sox, les Knicks n'ont pas le niveau Pro B.
Pourquoi tu crois encore à Kevin Knox? Pourquoi tu crois encore à Kevin Knox?
Parce qu'en fait, il a montré qu'il était capable d'aller au cercle et provoquer les fautes. Mais le truc avec Kevin Knox, c'est qu'il est trop, enfin, il est faible. Enfin, c'est pas, en fait, il a pas de force. En fait, il explose à chaque fois. Il arrive à prendre les intervalles, tout ça, mais il explose. Et, en fait, et du coup, il a pas assez de force pour finir les actions. Et ça, tu vois que ça joue dans sa tête que il pénètre, il prend un coup, il baisse la tête, machin, et après il se met à shooter et ça ça rentre pas.
Ouais. Je suis sûr que tu peux pas faire du Frank to Kevin quoi.
Ah, ça.
Non. Après je suis sûr qu'il sera inclus dans un trade s'ils font un truc pour
parce que là, tu peux dire top 10.
Si c'est le trade Chris Paul, je suis sûr qu'il est dedans.
Oui, pedigree top 10, il est content sa troisième année.
Je suis sûr qu'il est agressif avec des tours, je suis sûr qu'il veut l'avoir.
Ah, bah après, c'est un ailier qui joue mal.
Il peut jouer.
Oui, il peut jouer. Non, mais c'est le classique. Non, mais c'est vrai, c'est le classique.
Tous les ans, le draft. Il prête encore à la prolongation, Nox?
Dans 2018, donc dans un an.
Dans un an, ouais.
Non, mais la question d'Enix, c'est est-ce que le premier rookie qui prolongeront depuis.
C'est Franck.
Mais je pense qu'ils vont prolonger Franck. Si, je pense qu'ils vont prolonger. Ah ouais, échanger.
Soit il échange, soit il le prolonge.
Moi, je pense qu'ils vont le prolonger et que Thibodeau, il va pas être malheureux de.
En fait, soit il est dans les petits papiers de Thibodeau, soit il l'est pas. Et il peut l'être vu son profil. Mm. Mais...
Ça dépend si Thibodeau veut faire de Deddy Smith son Derrick Rose.
Pas pour
échanger, c'est une semi-van en plus. Hein.
Tu peux le dire plus fort, Tom.
Non, mais c'est vrai, pour être échangé, il faut qu'on te veuille, tu vois. Faut qu'une équipe lance le choix d'aller chercher.
Moi, Franck, je le prends sur mon banc.
Ouais, moi, je le prends sur. En fait, moi, je te dis, par exemple, moi, je trouve que typiquement, c'est un joueur qui peut être bien quand le ball handler n'est pas le poste 1.
Tu prends Spurs avec tes Spurs,
ou pas? Oh non, mais
avec tes Spurs.
Mes Spurs. Mais non, mais ils ont déjà des gens t'aimerais. Ils ont déjà un mec inoffensif qui défend, donc ils vont pas en mettre deux. Non mais sinon, moi je te dis
avec Simmons,
les Mavericks,
aux Mavs.
Aux Mavericks.
À côté de Doncic, ça le fait carrément parce que c'est pas lui qui a la responsabilité du jeu et il défend.
J'ai hâte de voir dans la meilleure histoire, dans la meilleure attaque presque de l'histoire, comment Franck va évoluer.
À côté de Seth Curry. C'est pas dégueu. Hein.
C'est pas honteux. Et moi, je trouve ça très intéressant.
C'est le genre de pari que tu vas bien faire, ça.
Delonwright, il est large meilleur que
Franck. Moi, par exemple. Ce serait le meilleur en meneur des X pour
moi. Je trouve que, typiquement, il est peut-être trop tendre, certes, pour ce rôle, mais exactement le rôle qu'a pris Avery Bradley, aux Lakers.
Ouais, peut-être.
Ça fit bien, je trouve, avec le joueur.
Faut qu'il mette dedans. C'est ça.
Faut qu'il mette dedans. Mais il a le temps de se développer pour mettre dedans. Mais il a juste besoin d'être
un trois étés qu'on me dit qu'il travaille. Le rôle d'Avery Bradley, on le donne aussi à un vétéran qui a de la bouteille, etc. Franck, il a rien fait.
Ah oui, non, mais je dis pour, sa voix pour rester en NBA, c'est mettre des trois et défendre.
Ouais, c'est ça.
On lui demande pas de faire du
playmaking. C'est un 3&D petit. Voilà. Sur de petite taille.
Il fait extrêmement chaud dans cette salle. On va vous dire tout. C'est une fournaise.
Et personne n'a tombé le t-shirt.
C'est vrai. Donc on va répondre.
C'est incroyable, sachant que Alan qui a un manoir n'est même pas la clim. c'est dingue ça.
Alors, Franck à Dallas, vous voulez ma mort? Et alors. C'est un commentaire que YouTube me demande de modérer, hein, de French Geeks Podcast, parce qu'il rajoute avec cette franchise de crackhead. Donc,
par contre, tu vois, Franck Adalas, French Geeks Podcast, ça fait je sais pas combien de temps qu'il nous parle du pick and roll Porzingis Franck, et bah voilà, tu l'as Adalas.
non, et t'as Tim Hardaway à côté.
C'est meilleur que Chris Middleton. Voilà. C'est ton équipe que t'aurais aimé avoir.
question de Furious Pat. Je crois que c'est un fan de Casey, ouais, encore une fois.
Ça dit quelque chose.
Les playoffs sur place sans les allers-retours, avion, plus de repos, de la coupure, vous pensez qu'on va pas avoir des playoffs de très haute intensité physique cette année?
Ça peut, hein.
C'est ce qu'on disait, ça dépend de la préparation.
Mais en fait, si qui dit haute intensité physique dit peut-être des défenses plus fortes et des attaques moins prolifiques.
Oui.
On risque d'avoir.
Non, moi je dis toujours better offense. C'est
alors Montaigne n'aurait pas compris.
La meilleure attaque l'emporte toujours. Moi j'ai toujours essayé.
En 2020, ouais. Pour moi, oui.
En 2020, oui, mais est-ce que forcément on verra des choses qui ressemblent
mais finalement, on parle toujours de en play-off, ça défend mieux. Mais en fait, en play-off, ça défend mieux, ça attaque mieux. Et finalement, quand tu regardes les ratings, il n'y a pas un changement. Il n'y a pas le defensive rating qui monte et l'offensive rating qui baisse.
Mais t'as moins de joueurs, t'as moins de rotation pourrie et de joueurs moins bons, tu vois. Là où le truc, c'est que même si ce sont les mêmes scores et les mêmes chiffres, vu que les joueurs qui jouent sont meilleurs, ben le niveau change quand même, tu vois. Même si t'arrives, c'est-à-dire que c'est un peu plus fort en attaque, c'est un peu plus fort en défense, donc du coup ça se nivelle, donc t'as les chiffres un peu pareils, mais c'est pour moi ça, il y a quand même un changement.
Ah oui, c'est un changement. Oui, le chiffre ne dit pas tout, mais ils sont. C'est ce que je dis, c'est tout monte, mais on le voit pas dans les chiffres parce que finalement tout monte.
Ouais, mais je pense que moi ça rejoint la question qu'on se pose depuis le début, c'est où on en sera en termes de préparation physique, de justement d'intensité qui est possible à mettre, de où en seront ceux qui règlent la mire avec ces nouvelles salles.
Ouais.
Tous ces facteurs-là, mis les uns à côté des autres, on ne sait pas trop.
Il y a certaines séries, typiquement Milwaukee et Lakers, où je pense que Milwaukee et Lakers vont y aller tranquille. Tu vois, ils vont pas cramer leurs joueurs et tout, et eux, par exemple, ça va être un tour de choc, donc sur ces séries-là, les playoffs seront pas forcément.
Eh, attends, Lakers Blazers, je te dis, pour moi, c'est pas.
Ah oui, après, si ça commence à être serré,
les Lakers sont obligés d'être sérieux.
Ah, ils sont obligés d'être sérieux pour moi contre les Blazers.
Si c'est les Blazers.
Avec Milwaukee, oui, contre Orlando. Mais
sinon, ils
sont.
La dernière fois
qu'ils
ont
détruit
les Blazers contre Anthony Davis, ça s'est pas bien passé.
Ils ont gagné au Staples Center la dernière fois, c'est qu'ils ont été
intéressants. Ouais, mais en playoffs.
Oui, peut-être, mais
il y avait le contexte de mort de Kobe, etc.
Ah ouais, peut-être, mais ils y vont, ils font mal dans ce match-là.
C'était pas mal. Lillard était incroyable.
Et oui,
incroyable.
Et pour finir, peut-être, ou en tout cas, on peut prendre plus de vos questions. C'est sorti juste avant qu'on enregistre, qu'on démarre ce live et qu'on fasse notre petit réglage technique. Les finalistes pour les trophées, donc les 6 trophées Kia, hein, parce que c'est les classements de produits, faut pas oublier. On va faire un petit tour de table. Hein, j'invente cette rubrique. Je vous donne le trophée, je vous donne les 3 favoris, vous me dites qui gagne. Ok.
Vas-y.
Je suis chaud.
Qui on veut ou qui gagne?
Obligé de prendre une personne dans les 3.
Est-ce qu'on pronostique ou est-ce qu'on donne notre MMA?
Voilà, on va donner une note parce qu'on peut deviner. Alors le Kia NBA Most Valuable Player.
Oh,
merci.
Comme Montaigne n'a pas fonctionné.
Le meilleur joueur, le joueur le plus valuable, ça ne se traduit pas. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks, James Harden, Houston Rockets, LeBron James, Los Angeles Lakers. À toi, Tom.
Giannis.
LeBron.
LeBron MVP.
LeBron.
Harden. Giannis.
Giannis. On a donc 4 Giannis, 3 LeBron, le camp LeBron.
C'est Giannis qui l'a
dit. Ici, en plus, on est face à face sur la table.
C'est triplé, là, les renégats.
je me base sur ce que j'ai dit juste avant le confinement. LeBron qui montait en pression, qui commençait à taper un petit peu tout le monde, dont Kawhi. Et une saison NBA s'est fait de tournants et de faits marquants, surtout dans des courses au MVP. C'est vrai que si on regarde froidement les chiffres, les Bucks sont numéro 1 à l'Est, Giannis produit
de la NBA.
Ouais, de la NBA et en plus produisait des chiffres monstrueux. Mais je trouve que je rajouterais, on va dire, la case mérite supplémentaire à LeBron qui fait tout ce qu'il fait, ou en tout cas tout ce qu'il a fait cette saison, à l'âge qu'est le sien, avec un effectif, je trouve, pas encore super rodé. Il est meilleur passeur de la NBA. Et en plus, voilà, il était à un moment où il fallait plus ou moins décidé de qui allait être le MVP, en train de broyer à peu près tout le monde. En plus, moi, ce que j'avais aimé dans les deux confrontations face à Kawhi et Giannis juste avant le confinement, c'est le fait qu'ils défendent sur eux. Et ça, c'était quelque chose de nouveau pour un LeBron qui défendait un peu moins ces dernières années. Donc c'est en ça que j'en faisais mon MVP.
Puis au-delà du narratif, moi aussi sur la saison, je vois mal LeBron repartir sans rien en termes de trophée. Et je pense que de titre. Et Giannis repartira probablement, enfin on en parlera sûrement, mais avec un autre trophée. Donc
je pense qu'il est plus pénalisé sur ce trophée.
Pour paraphraser une phrase que Kobe avait envoyée à LeBron, tu peux prendre le trophée de MVP de la saison régulière, moi je prends le trophée de MVP des finales. Ça, niveau trash talk.
Ah bah ça, de toute façon, on sait que LeBron il le laisse volontiers celui-là.
Ah, oui,
on
oui,
sait
oui.
que ce qu'il a en ligne de mire, mais après, est-ce qu'il a le matos autour de lui pour y parvenir, ça j'en suis pas sûr. Il a le lieutenant ultime, je dirais même parfait,
Mais après, on sait que parfois, ça suffit pas. T'as eu des duos récemment qui ont été très forts, des Harden avec Chris Paul. T'en as eu énormément, mais qui n'ont pas pu aller au bout parce que autour, il y avait pas forcément ce qu'il fallait.
Balle dans le camp de Janice.
Moi, je trouve. Juste avant qu'on débatte plus, sachant que les votes se sont arrêtés avant la reprise.
Oui, tout à fait.
C'est important de le mentionner parce que ça peut jouer, notamment que LeBron n'est pas forcément bon pour l'instant. Même pour d'autres
trophées, ça joue aussi.
Oui, mais tu vois, ça peut jouer sur certains trophées.
Ouais. Non, mais au-delà de ça, moi justement, je pense que ça s'est arrêté trop tôt pour que LeBron puisse prendre un MVP. C'est-à-dire
qu'il a fallu que ça continue un peu.
Exactement. Il y a eu effectivement ce tournant. Moi, j'y souscris, mais en fait, de novembre.
Il aurait fallu qu'on se confine pas et qu'il continue encore
exactement.
Un peu pendant un
de
mois.
De novembre
à casser des bouches.
Ouais. À février, ça restait Giannis. Ça commençait à tourner vers LeBron, mais pas suffisamment. Ouais. Et du coup, pour moi, j'arrête le cut au moment où la saison s'arrête. Au moment où la saison s'arrête, ça reste Giannis.
Après, si je dois, pour ma part, donner mon pronostic, je miserais sur Giannis. LeBron est mon MVP.
C'est Giannis qui va l'avoir.
Ce que j'avais pronostiqué en tout début de saison.
Ouais,
je reste sur Giannis, sur celui qui va l'avoir. Mais si tu me demandes à moi qui le mérite, j'aurais.
C'est pas un des trois meilleurs joueurs du monde, mais il va l'avoir.
Voilà.
Moi, je pense que Giannis le mérite pour sa saison. Et puis, le truc, c'est qu'en fait, les Bucks dominent tout le monde alors que le mec joue 30 minutes.
Ouais.
Le mec, ils enlèvent le mec parce qu'il y a trop d'écart pour qu'il fasse pas trop de dommages.
Les écarts qu'ils font sans lui sur le terrain.
Oui, aussi.
T'as vu les Lakers sans LeBron sur le terrain.
Ouais, mais visiblement son équipe n'est pas assez bonne.
C'est pas comme ça qu'on donne.
Oui, mais ça peut être aussi.
Mais sinon, tu le donnes à LeBron chaque année. Sur ce critère, tu le donnes à LeBron chaque année.
C'est sûr.
Certes, peut-être Giannis, c'est pas le meilleur joueur. C'est pas le meilleur joueur en NBA aujourd'hui. Tout le monde va.
Même si ça reste débattable.
Je pense que si tu vas en playoff aujourd'hui, tu veux avoir LeBron James tant qu'il n'est pas battu.
LeBron, Kawhi et KD devant. C'est les trois meilleurs joueurs de basket que James.
Quand Russell Westbrook a dit MVP, c'est pas
le titre. Voilà,
c'est des trois meilleurs joueurs.
C'est parce que c'est pas le titre de meilleur.
Désolé, Adrien, désolé.
Parce que j'ai
appelé Russell.
Parce que c'est pas le titre de meilleur joueur. Et souvent, on a investi des votes, tu vois. C'est pas le meilleur joueur de la saison et c'est pas le meilleur joueur du monde.
Et Giannis, tout à fait.
Alors, on enchaîne, alors que Info Foot, Andrea Pirlo sera l'entraîneur de la Juventus.
Voilà. C'est magnifique.
C'est dire s'ils ont plus d'oseille. Tout va dans la poche de Ronaldo.
Rookie de l'année, alors.
Il y a des scandales. Hein.
Trois finalistes, Ja Morant, Memphis Grizzlies, Zion Williamson, New Orleans Pelicans, forcément, le marketing, et Kendrick Nunn, Miami.
C'est pas un vrai rookie.
On refait le tour de table, allez, c'est parti.
Moi, déjà, il n'y a pas de débat.
Alan, déconne pas.
On arrête le live maintenant. Non, Ja.
Et putain, arrête avec Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja.
C'est non.
C'est rookie d'année, Ja. Non, mais c'est Ja, mais ça me fait très peur de voir le nom de Zion dans ces trois finales.
Mais pourquoi ?
C'est scandaleux.
Qui aurait dû être là à sa place ?
Oui, non, mais c'est sûr que c'est compliqué. Kobe White, peut-être. Non, mais je dis pas qu'il doit être rookie de l'année, mais en l'occurrence, avant le confinement, il tourne sur ses 4-5 derniers matchs avant Morant, Zarkoutos.
Les gars.
Ouais, Morant.
Ouais, Morant.
Morant, voilà. Le camp de la
attention,
vérité.
Il n'est pas le chat de Madian.
Pas le chat de Madian.
Oui.
Qui est aussi spectaculaire.
Qui est très spectaculaire.
Très spectaculaire.
Il joue tout le temps très pauvre en altitude.
Il attrape des alley-oops avec des pelotes de neige.
Pas débat, mais tu disais, Adrien, ça te fait peur de voir son nom. Tu penses à un vol, à une Joel Embiid.
Bah, vol. De l'année. Vol, c'est dur, mais effectivement, si le nom est là, je pense que c'est, comme tu disais, un peu tout doucement la com.
Non, là, je me barre si c'est Zion.
Non, c'est scandaleux si c'est.
Faut arrêter les conneries.
Ce serait pas quand ils sont même pas bons, là.
Ouais,
il y a rien, quoi.
Il met ses points, mais il prend deux.
C'était
rebonds.
Avant la reprise
mais
de la
même avant, c'était.
On verra dans 3-4 ans.
Oui, non, mais ça.
On verra dans 3-4 ans.
Mais ce serait pas le premier vol, entre guillemets. Il y a eu plusieurs polémiques sur des rookies de l'année.
Dans 3-4 ans, Zion, il sera aux Lakers ou aux Onyx.
Ou il aura plus de genoux.
Onyx, ça, c'est reparti.
Bah, c'est possible, hein.
Franchement. Ah, c'est terrible, ça.
Mais c'est un truc qui peut faire peur.
Next trophy.
Next trophy.
Waouh, ok.
Mountain.
Le défenseur de l'année, Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks, Anthony Davis, Los Angeles Lakers, Rudy Gobert, Utah Jazz.
Giannis
a les deux, la même année.
Ouais, comme Olajuwon ou Jordan.
Voilà.
Alors on dit le nôtre, hein, c'est ça, ça. Ouais, c'est mon pronostic.
Bah, moi je vais dire Giannis. Ça, j'ai un peu changé d'avis. Je crois que j'avais dit Davis quand on avait fait un point avec Ilias et Ben.
Ouais, si tu mets LeBron, ouais.
Quelques mois, je vais le donner à Giannis parce que je trouve que.
Je vais faire tiquer, mais Rudy Gobert.
Les cocardiers!
Sachant que mon pronostic était Giannis et que je pense qu'il va l'avoir au niveau du MVP.
C'est aussi mon pronostic.
Ils vont le donner, enfin, moi je le donne à AD.
Moi aussi. C'est le même avis qu'Ilias, sachant qu'il aura le MVP, ils vont le donner.
Et même, je le donne, moi, et même au-delà de ça, hein, c'est pas juste parce que ils accorderont pas un potentiel doublé à Giannis, c'est juste que je trouve AD trop fort en défense.
Il a changé la défense. C'est pas Potapenko, quoi.
C'est vraiment un joueur. Enfin, tu sais, souvent, avec un joueur, tu peux un peu transcender et complètement modifier une attaque. Bah là, c'est le cas d'un joueur défensif. Le mec, il a absolument tout changé, quoi.
Je le donne à Giannis tout simplement parce qu'en fait les votants c'est pas un consul comme nous autour d'une table en fait. Ils savent pas ce que les autres vont faire, donc le truc, ils vont le donner à Giannis parce qu'il va avoir,
il faut qu'il y ait un trophée pour un tel,
ouais,
ou ça,
ouais. Ouais, mais le mec qui coche Giannis MVP, est-ce qu'il coche défenseur de la
ligue? Oui, mais il y aura ça, ceux qui ont peut-être coché un petit peu.
Mais si ça compte parce que t'as des années justement, t'as des MVP, t'as des MVP qui sont attribués à des mecs. Parce que on n'a pas envie de donner le même MVP au mec de l'année d'avant. On l'a vu à l'époque de Jordan, on l'a vu.
Oui, mais l'année d'avant, c'est pas pareil que la même année. Là, tu vois, c'est la différence. Là, c'est sur la même année.
Non, par exemple, là, un mec comme Giannis, il va l'avoir le MVP. Tu vois.
Mais t'en es pas vraiment sûr.
Il fait quand même un trophée individuel qui perd en finale ou qui va pas en finale.
Mais pour moi, en fait, ça.
C'est une question qui se pose pas comme ça, parce que c'est un truc. Moi, c'est la première fois que j'ai vraiment ce débat-là depuis que je regarde l'NBA, en fait. D'un mec qui peut faire le double.
Faire les deux, ouais.
Je pense qu'il s'en fiche, en fait. C'est une anomalie historique.
C'est ça. Comme c'est 2020, quoi.
Mais d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure, Alan, du fait qu'il mettait des. Alan, il parlait du fait que les Bucks mettaient des runs offensifs aux équipes d'en face sans Giannis, mais même défensivement, quoi. C'est incroyable, ça.
Pour Adrien, Fabrice F qui nous dit Gobert défenseur de l'année en termes d'image en pleine pandémie, 4 points d'interrogation.
C'est pas mon pronostic, ouais. Une nouvelle fois, mais c'est juste que moi je pense.
Toi, tu lui donnes et c'est pas ridicule.
En vrai, s'il avait pas eu le doublé l'an dernier.
Oui, il y a en plus ce narratif-là du doublé, mais par rapport à ce que disait Ilias, le gars que tu mets dans une équipe et qui change tout le schéma défensif et toute l'efficacité défensive d'une équipe.
Mais il change le jeu.
4 points de moins de moi que de. Il fait un chantier extraordinaire, les pourcentages au cercle.
Mais en fait, ça repose. Non, mais pour moi, la défense du Jazz repose uniquement sur ce type.
Oui, oui, oui.
Quand tu l'enlèves, c'est open fire dans la raquette.
Là où les Bucks défendent pas du tout pareil avec 100 et avec Lopez.
Ouais, tu le remplaces par Tony Bradley aussi, donc l'un dans l'autre, tu vois, c'est comme quand tu remplaces Westbrook.
Mais tu sors Giannis, tu sors Giannis des terrains, les Bucks défendent pareil.
Ah oui, parce que déjà
Lopez,
certains le mettent dans les NBA Defensive Team, Bledsoe pareil, en fait, des mecs de
Middleton peut défendre.
Middleton aussi.
C'est pour ça que en fait, j'arrive pas à le donner à Giannis, c'est qu'en fait, c'est pas lui qui fait que la défense change.
Ouais, mais quand tu regardes le Lakers, il y a des défenseurs aussi autour d'Aidy, c'est pareil.
Ouais,
c'est
mais pareil. Aidy a un plus gros impact.
C'est comme les Browns pour le MVP. On vote pas pour le.
Ouais.
C'est le même débat. On vote pas pour le mec qui rend les autres. C'est le défenseur de l'année.
Okay.
Ah, j'ai voilà. Tout le monde okay. D'accord. Merci.
Exactement.
Coach de l'année. Milwaukee est dans pratiquement toutes les catégories.
Oui, c'est impressionnant.
Coach de l'année, Mike Budenholzer, Milwaukee Bucks, Billy Donovan, Oklahoma City, Thunder. Dab de Pierre deux fois quand même en 2020, c'est quand même calculo. Et Nick Nurse, Toronto.
Moi qui irais Nick Nurse. Ah.
Donovan, moi.
Nick Nurse aussi.
T'avais dit Nick Nurse, non, dans le podcast qu'on avait fait.
Je donne Nick Nurse et Donovan.
Moi, je donne un co, et sachant que les coachs sont élus, Budenholzer et Donovan en co.
Ah oui, c'est vrai.
Ils sont vraiment les deux.
Et là, du coup, je mets plus Donovan et Nurse, moi. Je suis plus ce côté Nurse, quand même.
Ouais, moi, je suis Donovan Nurse aussi. Mais je donne un avantage à Nurse parce que il y a aussi, enfin.
Bah là, on parlait du narratif.
Et elle a gagné le titre aussi, hein.
Oui,
c'est pas que à cause de Kawhi.
Mais relancer une équipe qui vient de gagner le titre.
Le narratif
une bonne saison.
Super Kawhi. Oui.
C'est vrai. Il perd leur rotation à l'aile. Il perd Kawhi et Danny Green. Il perd de la rotation à l'aile.
Enfin, tout le monde voulait l'envoyer au bûcher. Nick Nurse, sa cote, elle est toujours comme ça. On a toujours dit que c'était un bon
intérêt.
C'est pas sur la notoriété.
Oui, il y a rien.
Ouais, mais après, tu vois, Donovan, il revient de loin, mais Vous avez déjà vu une mauvaise équipe qui a Chris Paul?
Dans quelle équipe? Fabrice F. Donovan, c'est pas CP3 le coach du Thunder?
Non, c'est
non, faut arrêter. Non, quand même.
Non, quand même, faut arrêter.
Mais disons que, le truc, c'est que un mec comme Chris Paul facilite toute la tâche d'un coach, quoi. C'est ton relais sur le parquet.
Vous avez gagné des matchs en Chris Paul.
C'est quoi la dernière équipe de Chris Paul qui a fait les playoffs?
Le 5 majeur, il a changé entièrement. T'as plus
New Orleans, ça a changé en fait.
Et il y a Dort.
Il était bien.
Dort.
Non mais au-delà de ça, Donovan a cette capacité, je trouve, à avoir changé quand il y a le départ de KD, il crée le Westbrook basketball. Où il sent l'entièreté du jeu de l'équipe autour de Westbrook. Ensuite, il intègre PG, il rechange.
Il intègre Melo.
Il rechange la façon de jouer et là on lui enlève à la fois PG Westbrook et l'équipe.
Et là moi où je mets des points à Donovan, c'est que il y a un système, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont été blessés, il y en a d'autres qui ont step up, qui sont compris.
Il y a des joueurs sombres chez vous
qui ont monté une marche, qui ont donné la même chose. C'est le syndrome d'une équipe qui a un système en fait. Tu vois, les Dort, les Nader qui sont capables de tuer. Et ça, pour moi, c'est très valorisant pour un coach, ça, pour moi.
Le meilleur sixième homme.
Ton trophée préféré.
Attention à ce que vous allez dire.
Mon trophée préféré, je le garde pour la fin, j'avais pas envie de le dire.
Le MIP.
T'es nul, t'es un peu meilleur, merci.
Pas cette année.
T'étais devenu violent.
Sixième homme, Montrezl Harrell et les Clippers. Lou Williams et les Clippers. Oui, ça sent scandaleux.
C'est scandaleux.
Denis Schroeder, Oklahoma City, Thunder.
Faites vraiment attention.
Tom. Des giga menaces.
Franchement, j'hésite entre Harrell et Schroeder. Et je pense que je dirais Harrell dans le sens où Schroeder, il est très bon, mais avec Chris Paul et Shai, et tout seul, il est un peu moins bon.
Bah, regarde les ratings.
Ok, je ferai ça tout à l'heure, on verra.
Tu verras, c'est un des meilleurs récits d'OKC. Bon, après,
non, mais sans les deux
les
autres
ratings,
sur le terrain,
quand ça nous arrange, quand on
les a. Les deux autres,
après, c'est pareil, Harrell, il est très bon avec Louis et tout le reste, quoi.
Pas forcément avec Louis.
Ouais, mais il voit Paul George et comment ici.
Non, ça dépend.
Mais si, il y a toujours au moins, t'as vu l'effectif des Clippers.
Quand il joue avec le banc, c'est lui qui domine tout le banc. Même Schroeder, même quand il est sur le terrain, c'est pas forcément lui qui prend tous les ballons.
Il est avec Shea, c'est lui qui a
joué. Oui, mais quand est-ce que lui, il a le meilleur défenseur adverse sur lui? Jamais.
Ah, si, quoi, sur les RL non plus. D'ailleurs, déjà. Et en plus, dans le clutch et tout, ils mettent des gros joueurs sur Schroeder. Plus que sur Shea.
Des gros joueurs sur Schroeder.
Des gros défenseurs. Et d'ailleurs, Schroeder prend le meilleur joueur adverse aussi.
Le nombre de matchs aussi que Schroeder a terminé.
Il a fait gagner des matchs. Il a fait gagner des matchs, certes. Ouais. Moi, je trouve que, l'apport, c'est kiff, mais je trouve que l'apport d'Arel sur le banc est plus important.
Bah, moi, regarde les Clippers sans Arel, regarde OKC sans Schroeder.
Mais c'est pas la question,
si, moi je réponds.
T'aimes recentrer le débat.
Enlève l'apport d'Arel et enlève l'apport Schroeder. Ok, si.
Non, mais la question du trophée, c'est pas la.
Je réponds à Tom. Et je pense que les votes.
Oh là là, j'ai pas envie de me faire engueuler, mais en vrai, de prime abord, j'aurais dit Harrell aussi.
Bon, moi, je vais donner mon avis, et pas parce que Pierre est en train de menacer ma famille. non, moi, Schroeder. Schroeder aussi. Ouais,
bien sûr. Schroeder.
T'es sûr que tu votes pas Harrell? J'étais pas sûr. Bien sûr. Non, Schroeder aussi.
Pourtant, Donovan, donnez-lui pas, mais donnez-le Schroeder.
Quel est le plus scandaleux, la présence dans les nominés de Lou Will ou de Zion dans les rookies?
Lou Will, c'est scandaleux.
Alan, il défend pas et il attaque mal en ce moment.
Franchement, Lou Will, moi j'ai des séquences vidéo de son match face aux Lakers.
C'est infâme.
C'est infâme défensivement, il offre des couleurs
qui
s'y...
les mecs.
C'est ça. Ça a toujours été comme ça, c'est pas dur.
Lou Will en pick and roll contre LeBron James, tu veux
qu'il fasse quoi? Non, il se fait défoncer la gueule
par Bradley.
Recentrons le débat.
Oui, il se fait défoncer par KCP.
Non, il est pas Schroeder.
En fait, je m'en fous de ce débat complètement. Non, c'est des trophées que je trouve totalement inutiles.
Et bien, on finit par ton
point. On finit par le préféré. Most Improved Player. Progression de l'année. Bam Adebayo, Miami Heat, Luka Doncic, Dallas Mavericks, si je parle comme ça, ça sera mieux. Brandon Ingram, New Orleans, y a pas Pelicans.
Même pas Jaylen.
Luka Doncic, sans contestation possible.
Alan inspiré.
Doncic, c'est trop tôt.
C'est trop tôt?
Trop tôt!
Je veux dire, il va encore passer un step supplémentaire.
Mais ouais, parce que du coup, là, il est pas top. Parce que là, il est top 100 genre de la ligue.
Bah oui,
là, il faut qu'il passe à MVP, sinon il l'a pas.
C'est pas une progression logique.
Mais c'est sa deuxième année.
Oui, donc il a pas progressé entre la première et la deuxième.
Si,
mais donc si, genre, il a fait une saison entre les deux, là,
il y a le truc sophomore.
Bah oui,
je vois ce qu'il veut dire.
Bah sinon, tu le donnes à jamais à aucun sophomore.
Ah bah non, je le donne jamais à un sophomore.
Mais c'est fini, mais c'est
bien plus tard.
C'est fini parce qu'on dit que
c'est le sien.
Tu donnes pas un sophomore, c'est parce que tu attends une progression.
Je vois ce qu'il veut dire. Tu prends 2005. LeBron, il passe d'une saison rookie de 25-5 à 28-7-7.
Ouais.
Il l'a pas eu.
Oui, mais ça, c'est le passé. On va pas blâmer, on va pas reproduire des erreurs du passé.
Une nouvelle fois, c'est parce que les erreurs ont eu lieu dans le passé. Donne le sien.
Il dit pas que c'est le premier. MIP, c'est pas un truc de,
Je rappelle que Monta Ellis a eu,
il était deuxième. Oui, il était sauf un bord, Monta.
Arenas aussi, il était deuxième année, il me semble. Arenas, c'est
une somme.
Ouais, mais après, ça marche pas avec des mecs.
Mais c'est juste que je suis pas du tout la première.
Drafté haut. Ça marche pas avec des mecs draftés.
Mais est-ce qu'on n'est pas devant une anomalie aussi?
J'ai l'impression qu'il y a des réticences, moi, ça. Qui a donné un sophomore,
ouais, mais est-ce qu'elle est logique, cette précision?
Mais Paul George, j'avais eu, non?
Mais les gars, sérieux.
Encore une fois, c'est pas un pronostic.
Sérieux.
Ouais, après, c'est pas pour nous. C'est qui?
Moi, je vois, moi, je donne ce trophée, c'est vraiment un truc assez robotique, je trouve, dans ma tête. Je le donne à vraiment un gars où je m'attendais pas à une progression et je vois des choses nouvelles dans son jeu. On savait que Doncic ferait tout ça.
C'est ça.
On le savait l'année dernière.
Non, les Kings ne le savaient pas.
Mais là, les massifs de l'histoire! Ma deuxième saison, tu t'attendais à ça?
Je m'attendais à un joueur qui allait être une des plus grosses menaces en attaque en NBA dès sa deuxième saison. Avec ce que j'ai vu l'année dernière. Pas à du 120 de rating offensif quand il est sur le terrain, mais il a
porté. Attends, alors, qui mettait Dallas en playoff de manière aussi confortable qu'ils y vont dans un fauteuil?
Mais personne, mais si Porzingis. Et Porzingis n'est pas blessé.
Ça fait la révision
historique. Tous les roleplayers ont mis.
Non, mais même avec Porzingis de retour, je veux voir le mec qui me dit Dallas.
T'as raison.
À ce niveau.
Le truc où je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, si c'est robotique, c'est la meilleure le mec surprenant. Il y a personne dans la liste qui est.
Bah, Bam quand même.
Bam quand même.
Non, moi je trouve.
Ouais, Bam, mais il était dans les fiches quand même.
Moi, Brown.
Jalen
Brown pour moi.
C'est vrai que Jalen Brown il est passé de.
Il a un role
player. Il était dans les trois là.
Non, il est pas dans les
ouais, ça me semblait.
Il est passé de. Puis en plus, en fait, c'est con, mais c'est toujours un mec qui augmente ses points, augmente ses passes, qui devient peut-être All-Star pour la première fois. C'est trop robotique, je suis d'accord, ça sert pas à grand-chose, mais ouais, Bam. Si je dois en choisir un, je dirais Bam. Qui profite aussi beaucoup du contexte Miami, de Spoelstra et de. Tout ce qui... et de l'arrivée de Jimmy Butler.
Bah moi je suis sensible aux arguments de Tom une nouvelle fois. Je pense que Doncic, mais si on en prend plus le cœur là, comme disait juste avant Alan, moi ce que fait Bam, je trouve ça tellement bien. C'est ce que j'aimerais que fasse par exemple un Wendell Carter. Donc j'ai aussi un petit affect. Bon, mais
faut déjà qu'il regarde le cercle.
Oui, non, mais il le regardait quand tu regardes.
Non. Fond d'attaque.
Écoute pas. La barbe du crapaud.
C'est ça. Et en plus, Tom, je suis trahi parce que j'étais là en train de te défendre sur le cas Doncic et voilà ce qui arrive. Mais ouais, non, je vais dire Doncic, je pense quand même, parce que je suis un peu du même avis. Genre, c'est vraiment. Genre, oui, on pensait qu'il était fort, on avait ce biais d'européen où on avait envie qu'il soit fort, mais là,
c'est la première année. Moi, c'est la première année qui m'a fait dire que.
Ouais,
c'était
j'entends. Pour toi, il était trop fort déjà en première année
ouais.
pour
Ouais, moi je vois ce que en fait, c'est juste que là, il a encore plus de ballon, il a encore plus tout en fait, c'est tout plus augmenté.
Mais il est encore meilleur dans tout en fait.
Fort défense.
Et l'année prochaine, il sera meilleur dans tout encore.
Ouais, ça se trouve.
Oui.
C'est exceptionnel.
La VAR confirme que Monta Ellis a bien eu et il est passé de 6 points de moyenne à 16. Il est passé d'un rôle de, en gros, bon joueur de banc à titulaire, etc. Par exemple, pour moi, le contre-argument de ça, c'est qu'un mec en deuxième année qui passe d'un rôle mineur à un rôle majeur, ouais. qu'il augmente ses stats, c'est logique.
C'est logique,
en fait.
Ouais.
Mmh.
Je suis d'accord.
Parole à la salle.
À la salle, toujours.
Bah, je le donne à Bam Adebayo pour les mêmes raisons qui ont été évoquées. Et après, je suis content, enfin, et ça me paraît logique de voir quand même le nom d'Ingram prononcé dans cette discussion. Parce que il a été transféré des Lakers, il a pas fait une saison grandiose l'année dernière, même si en deuxième partie de saison il avait été meilleur, il commençait un petit peu à monter en pression et à régulièrement mettre 20 points par match. Mais là, on se rappelle que l'été dernier, ça avait été compliqué. Il avait aussi contracté une maladie, je crois. Du coup,
un caillot,
je crois. C'est voilà. On savait pas trop quelle allait être la saison d'Ingram. Et ben là, c'est simple, il a été All-Star. Il prétend un contrat max qu'il va avoir très logiquement. Mmh. Et donc, le voir dans cette discussion, c'est aussi une très bonne chose.
C'est mérité.
Ouais.
Contrat max.
De toute façon, il veut son oseille. Il l'a dit. Moi,
non, mais il l'aura.
Quand je vois tel et tel mec payé, enfin, il a pas cité de nom.
Jamal Murray.
Et il a dit, bah, je veux mon argent.
Pierre.
Moi, bam, parce que Doncic joue mal.
Non, mais je peux pas ne pas. En fait, Doncic, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus défendre. En fait
juste ouais. D'avoir fait une saison entre les deux.
C'est ça.
Non, défendre. Non, je suis désolé, défendre quand même.
Qu'est-ce que vous me parlez de défendre? Le mec est.
Et en plus, le MIT, non, historiquement, tu vois, on en parle depuis tout à l'heure, c'est pas le mec qui est le meilleur défenseur.
Je veux même pas qu'il défende. Fais au moins des efforts.
Oui,
fais au moins des efforts.
C'est pas le trophée de la défense. On n'est pas aux défenseurs de la défense.
Ils vont se faire ouvrir.
Mais c'est même pas une histoire de défense.
C'est pas la question de
l'histoire de haut rôle. Le mec, il est passé de même pas All-Star à Superstar.
Il avait le même rôle
dans
l'attaque.
Mais force, là, c'est bon.
Il avait le même rôle dans l'attaque, les deux.
Oui, il avait le même rôle.
Le premier jour, on a dit à Luca, fait les choses.
Ouais, mais il est bien.
Son rôle n'a pas évolué.
Comme ça a été dit dans le chat, ça a quand même augmenté alors qu'il a. En gros,
toujours les
mêmes. Oui, il a quand même plus de ballons, il a quand même plus tout que l'année dernière.
Ah, mais pas au niveau de son explosion statistique, en fait.
Oui, il avait des
Il a pas Dennis Smith.
Tranche dans le vif. C'est pour contre, ça, en fait. C'est Dennis Smith, c'est le, qui a permis de faire progresser Luka.
Par contre, à l'inverse, pour un argument pour l'autre côté, les trophées, j'ai entendu certaines personnes qui défendent le contre Luka, qui ont donné des MVP à LeBron James, alors qu'il a défendu rien, en fait. Donc, dans certains trophées, la défense n'a jamais compté, en fait.
Ouais, mais il a pas le meilleur bilan, Luka, non plus. Enfin.
On n'a jamais regardé le bilan pour la meilleure progression.
Oui, mais pour la MVP, on le regarde.
Sinon, moi, je suis.
Non, mais, pour le MIP, par contre, tu peux regarder que le mec était franchise player des Mavs et que personne les foutait en playoff et qu'ils y vont dans un fauteuil.
On regarde pas les bilans, pour le MIP.
Moi, c'est pas Shea, il est pas là pour si c'est les sauf ou
pas. Tu vois, Shea, il est pas là pour si c'est les sauf ou pas. Shea, Young, tu sais qu'il est dans le. Young, il a aussi vachement progressé, tu vois, dans le même style.
Oui.
Il a vachement progressé.
Non, mais là, tu vas me prendre par les sentiments. La technique,
là. Non, mais c'est pas la technique, ce sont des faits réels, tu vois. Trae Young, il a aussi progressé. Shai, aussi pareil, le gars de Charlotte. Le Tracy. Graham.
C'est quand même un sacré diplomate.
Ah, moi, Graham, après, ça a baissé, mais au début, je le mettais Graham.
Tu vois, enfin.
Ah, ça, c'est déventé.
Comme dit The Pain Don't Lie, Bam joue 10 minutes de plus, il passe de 10 à 16 points. Doncic joue 7 minutes de plus, il passe de 20 à 29. Doncic en capitale. Je pense qu'on va. On va peut-être conclure là-dessus.
Non, je regarde les gars. Trophée au MAP, ça mérite pas.
Mais c'est match.
Put some respect on Bam, les gars. Bam Adebayo, c'est un sacré.
Bam, quand il va sortir Giannis en playoff.
Statistiquement, c'est le meilleur défenseur.
S'il a le temps de les affronter.
Ça dépend comment ça.
Oui, il y a Jabari Parker sur la liste.
Oui. Ça y est, on a mentionné Jabari Parker. Je dis juste Jeff Green. Comme ça, on a fait tout.
C'est parfait. Autoporteur, podcast, chanteur.
C'est bon, c'est fini. Et Damien Jones, hein. Regretté Damien Jones.
Et Ben Bentil.
Ouais. Ben Bentil, hein. On sort tous les blazes cramés.
Et Christian Wood.
Ah non, il est pas cramé.
Justin Holliday, faut dire.
Et le trade de
Goran Dragic.
Merci Pierre. Il y en a un qui suit. Et c'est là-dessus, je pense qu'on va conclure ce live qui aura duré presque 1h50. Oui, je regarde le enregistrement. Ah non, 1h40 parce qu'on était en retard. On s'en excuse. Quelque chose à rajouter, messieurs? Je pense que tout le monde va courir vers
les bouteilles de boisson fraîche.
Vers la boisson fraîche. Très bien. Eh ben, on remercie tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Le live sera bien sûr à retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes où vous écoutez le podcast. Pour ceux qui nous écoutent en replay, après 1h50 de live dans la chaleur des tropiques, on mérite 5 étoiles sur Apple Podcast, s'il vous plaît.
Merci beaucoup.
On mérite 5 étoiles. On va arriver à l'objectif des 200. En tout cas, messieurs, c'était très agréable. Et ce n'est pas fini, parce qu'on a peut-être...
Ça s'est chaparlé.
On a quelque chose d'autre.
Comme toujours. Dit.
Des échauffourées.
Quand je vois les trophées au Kissi, ça chaparle.
Je m'attendais pas que Tom nous impose Luka à ce moment-là.
Il est imposé comme moi, j'ai imposé Schroeder.
Et là-dessus, c'est difficile de conclure quand il y a 6 personnes autour d'une table. On vous souhaite une très bonne soirée. Buvez beaucoup.
Hydratez-vous bien et mettez un masque.
très bien les conseils de sécurité de Alan. On vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Salut.
Salut.
Ciao.
Ciao.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.